suite pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 24 mars 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 25, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistant.
Oh, oui, on n'est pas très résistant, je trouve. Hein? Plutôt un petit peu, pas très collabo non plus, faut bien dire d'ailleurs.
Pas du tout.
C'est bien. Monsieur Bernard Anthony, bonsoir, si vous voulez être entendu, parlez dans le micro.
Bonsoir, monsieur de Bekech, et bonsoir aux auditeurs.
Parlez au micro. Non, c'est pas ça que... Oui, c'est ça, parlez au micro. Bonjour, micro. Maître Bernard Berry, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Goffman, bonsoir.
Honneur aux dames, Serge.
Non, je fais exprès.
Oh. Ah, je vous casse votre tête.
Mais vraiment. Mais...
Oh, pardon, je vous ai cassé un effet. Pardon, Serge de Bekech, et pardon aux auditeurs innombrables dans le monde entier et au-delà, n'est-ce pas, Victoria?
Victoria, bonjour, puisque je sais que vous êtes là maintenant, alors ça n'est plus une surprise pour personne.
Bonjour.
Si, alors, je vais quand même faire mon effet. Après avoir ouvert cet écrin de brillants sujets, je vous propose la perle que nous mettons dans cet écrin et qui est Jeanne Smith, directrice de présent.
Je vous remercie beaucoup. Je croyais que les perles avaient moins de valeur que les diamants, mais oh, bon,
bien, ça dépend. Les
perles, vous expliquerez ça à mon mari non, et il m'en ferait pas quelque chose de joli.
Je suis sûr qu'il en tirera profit. Oui, je vous ai invité ce soir parce qu'il se passe un événement considérable dans le monde de la presse, c'est que présent est accessible maintenant par Internet.
Par Internet, c'est une nouveauté. Nous avons voulu absolument la mettre en place. Elle n'est pas parfaite, cette nouveauté, mais elle a le mérite d'exister. Nous savons très bien que présent coûte cher. Et nous savons très bien que les jeunes n'ont pas suffisamment d'argent. Et nous savons aussi, moi je le sais par expérience, que lorsqu'on a accès à un journal quotidien au moment où il sort, et de surcroît sur son écran, très rapidement et très facilement, ça peut inciter à lire. Donc nous avons sorti cet abonnement sur Internet, qui nous permet de mettre en ligne tous les jours, vers midi, midi 30, l'intégralité du journal, qui est donc accessible à qui veut l'avoir, à condition d'avoir payé.
Alors comment marche-ce ?
Alors ça marche pour l'instant de façon rudimentaire, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que vous avez accès à toutes les pages du journal. Les spécialistes comprendront lorsque je leur dirai, ils y ont accès en format PDF, c'est-à-dire qu'ils ont une image du journal. Mmh. Ils n'y ont pas accès en version texte encore, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'imprimer à moins d'avoir une imprimante A3, ouais. Mais ils peuvent le lire en ligne et notre objectif est bien entendu de le mettre en version texte pour que les gens puissent avoir leur...
puissent copier, pour que les confrères puissent copier les phrases.
Exactement, c'est le plus grand honneur pour nous.
Absolument.
Voilà.
Et ça représente vraiment une économie considérable.
Ça représente très exactement l'économie de l'envoi du papier. Donc, du papier, de l'impression, de la diffusion, de la distribution en kiosque, de l'envoi par la poste. C'est cette économie-là dont nous faisons bénéficier nos abonnés Internet et aucune autre, parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des abonnés papier qui se désabonnent et qui viennent pour des broutilles sur Internet. Ce n'est pas possible. Nous sommes vendus à notre prix de revient, y compris sur Internet.
Donc, si on veut s'abonner à présent, il faut savoir que le prix de l'abonnement à présent, c'est X francs. Si vous êtes abonné papier, vous payez en plus l'imprimeur, le papier, le postage.
Voilà, et la distribution, choses, tout ça.
La distribution. Tandis que si vous êtes abonné à Internet,
vous avez
le
journal pour 50 euros 3 mois, 100 euros 6 mois, 181 euros pour un an.
Ça démarre quand? Ça y est, c'est commencé.
Ça y est, c'est fait.
Depuis
c'est
quand
fait. Depuis une semaine à peu près. Depuis une semaine, nous avons déjà un bon nombre de gens qui se sont intéressés à ça.
Et je suis allé faire un tour sur votre site, mais j'ai eu l'impression qu'on ne pouvait s'abonner. Il y a un processus un peu compliqué. C'est-à-dire, il faut d'abord imprimer le. Enfin, il faut vous écrire.
Non,
en tout cas,
il faut simplement nous écrire avec un chèque en nous donnant une adresse courriel. C'est tout.
Il n'y a pas de paiement en ligne, c'est ça que vous voulez
dire? Pas pour l'instant. Oui, on écrit surtout le chèque.
Oui. Mais... Et le paiement en ligne, c'est...
Le paiement
alors,
en ligne.
Question
oui.
Pour des raisons purement intéressées, parce que
oui.
Faire ça pour le Libre Journal.
J'ai expliqué que c'était difficile dans le journal, et nous avons un contact maintenant avec une personne qui propose du courtage de paiement en ligne. Et donc, nous allons peut-être, si cela s'avère faisable et surtout pas trop cher, nous allons essayer de mettre ça en place, parce que ça nous paraît indispensable.
Donc, et puis je vais vous libérer pour aller voir vos petits-enfants. On va quand même parler du dernier numéro, enfin de celui qui est sorti
à midi. Hein.
Quand je dis vos petits-enfants, vos enfants, pas
oui,
vos petits-enfants.
Vos enfants, ils sont petits. Ils sont
enfants petits.
Petits et terribles, d'ailleurs.
Quel est l'avantage, en dehors de l'avantage financier, est-ce que ça présente un avantage dans la rapidité de...
Mais bien sûr, puisque vous
journal.
Savez que nous sommes un journal du soir, comme Le Monde, à certains égards.
Quand non, Le Monde est un journal du crépuscule, permettez-moi
oui.
de vous contredire.
Vous avez tout à fait raison, nous sommes du début de l'après-midi, donc être abonné sur Internet, ça veut dire avoir le journal daté du lendemain, c'est la définition même du journal du soir, vous l'avez la veille, et là, sur Internet, vous l'avez vers 12h30, 13h.
En application d'un célèbre film qui s'est arrivé demain, où le gars reçoit la veille le journal du lendemain.
Oui.
Ce qui lui permet de...
Et donc, les présents, c'est déjà demain.
Le loto du lendemain dans présent, non?
Pardon?
Le mercredi midi, on reçoit les résultats du loto, non?
Mais bien entendu, c'est pour ça que nous sommes si riches.
On peut se rembourser rapidement.
Voilà.
Alors, on envoie donc un petit mot.
Un petit mot.
Je désire m'abonner à présent en ligne.
Oui.
Veuillez trouver 6 juin un chèque signé, si possible, essayez de signer les chèques, de 181
euros pour l'année, ou si vous voulez faire...
1 euro.
Parce que nous avons fait une règle de 3 et que nous savons les faire. Et c'est tout.
Est-ce que je peux avoir le mauvais goût de demander l'adresse du site, Jeanne Smith?
Bien sûr. www.présent.fr.
Il est dans le livre.
Comment, pardon?
Alors, je répète.
Comment vous dites?
3 fois W, présent, sans accent, .fr.
Et vous c'est pouvez facile. Rappeler le prix de...
Alors,
50 euros 3 mois.
100 euros 6 mois et 181 euros pour un an.
Alors pour les auditeurs qui ont noté ces chiffres, ils voudraient bien l'adresse postale maintenant.
5 rue d'Amboise, 75002, Paris.
5 rue d'Amboise.
Oui, dans le
75002.
Paris.
Et alors, ceux qui ont déjà eu la bonne idée de s'abonner, qu'est-ce qu'ils ont trouvé?
Ils peuvent avoir... alors, eux, ils n'ont plus rien, les pauvres. Mais pour la modique somme de 30 euros qui est destinée à renflouer nos caisses bien faibles, ils ont un accès d'un an à...
Ah non, les abonnés papier, vous voulez dire?
Oui, oui.
Oui, ça, c'est très bien.
Papier. Voilà.
Mais si, il y a toujours des papiers.
Il y a toujours, bien entendu. C'est principalement ça. Oui. Et il faut bien préciser que, pour l'instant, le téléchargement de présents en ligne est long, donc il faut avoir une bonne connexion Internet, sinon ça ne sert à rien.
Maintenant,
donc,
tout le monde est équipé. Hein,
ADSL. Quand vous dites bonne connexion, vous voulez dire ADSL, sérieusement?
Non, je veux dire que vous faites un essai, vous téléchargez par exemple notre cahier spécial sur présent.fr, vous voyez si ça marche.
On vous fera un dessin, Bernard-Anthony, parce que Bernard, il est complètement largué, là, il se demande depuis 10 minutes, visiblement, de quoi on parle.
Ben oui, je suis un paysan de la Garonne, et chez moi, on en est encore au signaux de fumée. Hein,
c'est pas vrai, vous nous avez expliqué une fois que vos enfants vous avez branché, câblé.
Mes enfants, ma câble, je ne sais pas si c'est câble, mais ma câble.
Alors je vais poser à votre place une question technique de plus. Vous aviez une autre adresse, il me semble, présent.com.
Oui, présentquotidien.com, c'est simplement une adresse qui facilite l'accès à notre site depuis l'étranger, parce qu'il y a des sites de recherche étrangers qui vous vireraient si vous cherchiez du .fr et qui vous trouvent si vous cherchez du .com, tout bêtement.
À mon avis,
présent.
Encore de la xénophobie, je vois.
À côté du site présent FR, vous avez présentquotidien.com.
On rigole, mais je pense que pour tous nos auditeurs expatriés, on reçoit des messages de Québec, de Tokyo, c'est une bonne nouvelle, parce que je pense que même par avion, ils vous recevaient avec beaucoup de retard en papier.
Et là, donc, même à Paris.
Ils vont dépenser, ils vont dépenser moins d'argent et vous avoir le jour même, quoi, en temps réel, comme allait dire Bernard Anthony.
Exactement, nous avons déjà un abonné à Tokyo.
Donc, récapitulons. Si vous faites www.prezent.fr,
voilà,
vous avez accès à un système qui vous donnera une fiche.
Oui, vous simplement vous reprenez l'adresse et vous
copiez, vous envoyez à l'adresse 5 rue d'Amboise, Paris 75002, un chèque de 181 euros pour un an ou de 100 euros pour 6 mois et 50 euros pour 3 mois. Oui, donc on vous envoie un numéro de code, je pense.
Exactement, et vous devez, pour vous connecter à chaque fois, vous donnez votre adresse mail et un numéro de code.
Par lequel, et à ce moment-là, vous recevez le journal présent sur l'écran. Vous pouvez le lire sans aucune difficulté. Pour les, ça, c'est très important, parce que pour les malvoyants, on peut grossir naturellement, comme c'est en
Il y a une fonction loupe.
On peut utiliser la fonction loupe, ce qui permet de lire le journal très facilement. Si vous êtes assuré papier, vous pouvez avoir le même avantage pendant un an en envoyant un supplément de 30 euros.
Voilà. Si jamais vous ne vous réabonnez pas en cours d'année, puis si votre abonnement vient à échéance, alors là, votre connexion Internet est supprimée immédiatement.
Vous êtes assez implacable quand même.
Ah, mais étonnant.
Un côté germanique chez cette jeune personne.
C'est très étonnant. Hein.
Elle est batave, tout le monde le sait. Personne ne va lui demander ce qu'il y a dans présent aujourd'hui.
Aujourd'hui,
elle va s'en tirer comme ça.
Je vais me couvrir de honte parce que je n'ai justement pas eu le temps de regarder le site avant de venir.
C'est avec l'argent, alors. Voilà.
Mais vous savez sûrement le numéro de téléphone de présent.
Je vais vous le donner, le 01 42 97 51 30.
Merci Jeanne.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Vous vous occupez de vos diablotins.
C'est ce que je vais faire.
Vos angelots diablotineux.
Et je vous remercie infiniment d'avoir reçu présent.
Un dernier, une coda vénénum, là je lui tire dans le dos, vous savez, la directrice de présent qui n'a pas lu le journal aujourd'hui, ça me rappelle l'histoire de cet écrivain dont le livre avait eu tellement de succès que même son éditeur l'avait lu.
J'avais reçu un jour à cette émission quelqu'un à qui j'ai posé des questions sur son livre et dont il était absolument évident qu'il ne l'avait pas lu. Non content de ne pas l'avoir écrit, il ne l'avait pas lu. Parce que je lui dis, vous parlez de ça, il me dit, ah non, pas du tout. Je lui dis, si, je vous assure. Non, pas de bon. Alors j'ai laissé tomber, je n'étais pas la peine de lui faire de la peine.
C'est Monseigneur Gaillot.
Non, je n'ai pas reçu Monseigneur Gaillot à cette émission.
Parce que c'est Monseigneur Gaillot à qui on reproche des propos homophobes dans son dernier livre et qui se précipite à la télé. Fou d'indignation. Mais enfin, de quoi m'accuse-t-on? C'est pas moi, c'est mon nègre. Donc, ce qui était une façon élégante de dire que non seulement il n'avait pas écrit son livre, mais qu'il ne l'avait pas lu non plus.
Bernard Anthony, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, j'ai placé à votre gauche, mais sans aucune connotation politique, c'est simplement topographique, Maître Bernard Méry, mais je pense que vous allez rester un moment avec nous. Parce
bien sûr.
Bernard Méry est quelqu'un qui est tout à fait intéressant, qui a engagé un combat dont il nous parlera tout à l'heure et dont après avoir été obligé au cours duquel à l'issue duquel combat après avoir été obligé de mettre genou à terre, il s'est relevé le temps de faire un bras d'honneur à ceux qui lui avaient fait mettre le genou à terre. Vous nous raconterez ça, Maître Méry. C'est une histoire très amusante. Ça concerne
mais je suis au courant de l'affaire de Maître Méry et de son combat tout à fait héroïque.
Mais alors maintenant, on va parler de nous d'abord. Alors, première question quand même, il faut que je vous pose cette question-là, parce que si je la posais pas, on me le reprocherait. Quelle est votre opinion, votre sentiment, votre réaction au résultat des élections?
Eh bien, j'ai attentivement analysé les résultats avec...
Pardon, je vous coupe pour rappeler que vous n'étiez pas candidat.
Non, je n'étais pas candidat.
Vous avez pris du recul, tout en restant militant du Front National, vous avez décidé de...
Pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas venir aujourd'hui. Je reviendrai ultérieurement. Voilà. Mais raisons qui ne m'empêchent pas du tout, loin de là, de rappeler que je suis toujours ardemment militant du Front National, membre du comité central, souhaitant simplement bon, un certain nombre de réformes que je juge nécessaires, que j'exposerai ultérieurement, mais sur lesquelles je me suis tu depuis le mois de juillet, c'est-à-dire depuis pas tout à fait un an, parce qu'en période électorale, il fallait que le Front National triomphe partout, comme je le souhaitais.
Alors, est-ce que vos vœux ont été exaucés ?
Écoutez, il y a deux dimensions là-dedans. Il y a les aspects, j'allais dire, politiques et les aspects sentimentaux. Parce qu'il n'est pas interdit en politique d'avoir des sentiments, des préférences, des hiérarchies. Un grand mouvement, c'est un mouvement qui unit des hommes très différents. Comme on le sait, je n'ai jamais eu l'esprit de coterie et j'ai voulu d'ailleurs, en ne conduisant pas une liste, en démissionnant du bureau politique, couper le coup à ce qui m'était insupportable, les allégations selon lesquelles il y aurait eu je ne sais trop quel complot catho dans le Front National. Là, on l'a bien vu, je n'ai pas comploté, je n'étais pas candidat. J'ai soutenu tout le monde. Mais cela dit, j'ai mes amis, dont le très cher, qui font de très bons résultats, Bruno Gollnisch, qui est un frère pour moi, en premier, Karl Lang. Je dois le dire aussi, les nombreux militants du Front National qui appartiennent aussi ardemment à Chrétienté et Solidarité, ils sont nombreux, je pourrais en citer au moins 50 qui vont être élus. Je relève Thierry Gourlot qui m'accompagnera au Liban prochainement en Lorraine, Patrick Bender qui m'invitait dernièrement à Strasbourg.
Qui a fait un très joli score.
Qui a fait un très joli score. Je suis vraiment content pour Patrick que nous défendons sur un autre plan. Il est poursuivi ignominieusement. Je me réjouis bien entendu de Jean Romé qui est un vieil ami. Jean-Romé Charbonneau, hein, ça c'est un grand nom de notre famille. Et bien sûr, Marie-Claude Bompard qui va être élue, je le pense, conseiller général du Vaucluse, ça en fera deux dans la famille, j'espère Macari. Voilà, beaucoup de motifs de satisfaction, donc même si ensuite on pourrait se livrer à une analyse de politologie que je ne ferai pas ici, ça indisposerait les électeurs, j'ai lu la presse attentivement, bien sûr j'aurais aimé que le Front franchisse partout la barre des 10% pour avoir des élus partout. Bon, ce n'est pas le cas, mais ce n'est quand même pas mal. Et il y a toujours le regard que l'on peut jeter sur le verre à moitié plein, à moitié vide. En tout cas, le Front National s'est bien battu, même si je crois que demain, il faudra parler sur cette distanciation inquiétante qu'il y a entre l'électorat, le nombre des électeurs et le mouvement que je juge faible, mais qui tient grâce, à, encore une fois, à un corps militant héroïque, quoique de très faible nombre. Voilà.
Dans votre région, il y a un troisième tour, enfin un deuxième tour, pardon, avec trois listes, quel est votre choix ?
Mon choix ne change pas. Au premier tour, j'ai dit que je votais et faisais voter Front National, et au deuxième tour, je vote et je fais voter Front National, et cela partout en France. Puisque je crois, on me prête certaines capacités d'influence, je suis tout à fait sensible à cela, et donc je ne change pas, je n'ai pas l'habitude, vous savez, de changer mes idées. Je défends un certain nombre de lignes de force politique sur lesquelles je suis assez en forme en ce moment. Je me suis battu et je continuerai à me battre, comme on peut le vérifier, en lisant la revue Reconquête, en lisant La Griffe, et en venant m'entendre à Orange le 3 avril pour la grande journée nationale de la Griffe.
Vous votez, excusez-moi Serge, vous votez Front National, Bernard Anthony. Alors, vous n'avez pas entendu les appels pathétiques et très émouvants de responsables de l'UMP. Bon, certains sont moins émouvants et même un peu grossiers. Al Juppé, par exemple, qui nous dit que le Front National sera présent au second tour dans 17 régions sur 22 à cause des imperfections du mode électoral. Mais d'autres, comme M. Copé et d'autres encore, expliquent aux militants du Front National que ces pauvres types, dans leur désarroi, se sont égarés et qu'il faut maintenant qu'ils votent UMP.
Ce ne sont pas leurs appels qui sont pathétiques, c'est eux qui sont pathétiques. Et je crois que s'ils avaient une tradition, après tout, pour une fois, on peut prendre un modèle étranger, s'ils avaient la conception japonaise de l'honneur, ils pourraient se faire harakiri et ce serait un spectacle qui ne manquerait pas de piquant ou de tranchant.
Pour Beyrouth, peut-être, non?
On peut dire son nom, quand même.
Ah bien sûr. Voilà, là, c'est officiel. Beyrouth est un personnage extrêmement intéressant. On voit... d'ailleurs, je bafouille un peu parce que je poursuis une autre idée tout en disant ça, mais on a vu à quel point les hommes politiques dans cette affaire ont pu se tromper presque plus que les instituts de sondage. On croyait qu'on avait atteint le maximum avec les instituts de sondage. Non, les politiciens, dont c'est le métier, se trompent eux-mêmes d'une façon grossière. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes les dupes de leur propre entourage. Et ça, c'est tout à fait frappant quand même. Parce que, pour prendre des cas un peu en vrac, monsieur Santoni, c'est ça, c'est Santoni ?
Santini.
Vous voyez, j'ai même pas son nom en tête. Monsieur Santini était absolument certain de croquer le copé, comme il disait, le petit copé, je vais en faire qu'une bouchée, je vais le croquer. Bon, il a rien croqué du tout, faut dire que faut un sacré appétit pour croquer le copé, hein. Moi, je préférerais me mettre à la diète, mais enfin, bon, chacun prend son plaisir où il le trouve. En tout cas, il l'a pas fait. Muselier, qui pensait qu'il avait passé les doigts dans le museau, il prend une claque. Et je trouve que c'est intéressant de voir à quel point ces gens se trompent, parce que sont plutôt de bons. Enfin, on peut imaginer comment ils connaissent le milieu dans lequel ils travaillent. Ils ont probablement une connaissance assez poussée des mécanismes électoraux, des grandes tendances électorales dans leur coin. Qu'est-ce qui peut expliquer cette erreur, sinon le rôle catastrophique des entourages?
J'ajoute le rôle de gens, des sondeurs, qu'ils payent et qu'ils payent fort cher. Ouais. Nous avons déjà évoqué ici le cas de l'Institut CSA, qu'on entend ces jours-ci sur toutes les ondes, et qui a vendu le même jour au PS et à l'UMP de Marseille des sondages où apparaissaient des écarts de 7 points. Alors, il se trouve qu'un reporter du Libre Journal s'est rendu dans une réunion du PCF où M. Stéphane Rosès, PDG de CSA, a pris la parole, ce qui était d'ailleurs fort regrettable parce que c'était assez ennuyeux et assez obscur, hein, sa politologie. Mais le compte qu'il a rendu des chiffres en question de ces contradictions était encore plus obscur parce que notre reporter est allé le trouver à la fin de la réunion et lui a dit: Monsieur Rosès, comment se fait-il que votre société CSA a vendu des sondages le même jour à deux clients marseillais avec 7 points d'écart? Rosès a commencé par dire qu'il n'était pas au courant de ce que faisait sa main droite à Marseille. Bon, c'est une petite bourgade sans importance, sans doute, et des clients pas importants. Et ensuite, quand notre reporter, pour essayer de l'aiguillonner, d'en tirer quelque chose, a prononcé le mot de crédibilité, alors à ce moment-là, il a piqué une énorme colère et les choses en sont restées là. Alors voilà des gens qui payent pour être là, c'est manifeste, pour être trompés, hein. Tu veux, naturellement, on avait dit au PS qu'il allait être 7 points devant, et à l'UMP, on lui avait dit la même chose pour le même prix.
Oui, et le résultat, c'est que s'ajoute à ça donc l'effet catastrophique des entourages qui disent « t'es le meilleur, vous êtes le meilleur, on va les planter les doigts dans le nez, on va faire des résultats formidables, ils n'auront jamais vu ça, etc. » Le résultat, on le voit, c'est pas exactement ce qu'on pouvait espérer. Maintenant parlons. Alors vous êtes, comme vous l'avez dit, vous avez abandonné vos responsabilités dirigeantes vous avez quitté vos responsabilités dirigeantes au sein du Front National, mais tout en restant militant. Et ça vous permet de consacrer plus de temps à d'autres activités que sur le Centre Charlier.
Oui, parce
et la Griffe.
Je crois, bon, peut-être aussi, est-ce une période provisoire? On l'a bien vu pour d'autres. Mais en 6 mois, je crois avoir un tout petit peu, non pas redresser la barre, les choses n'allaient pas mal, mais améliorer la situation des organisations que je préside. Et tout le monde peut le vérifier, puisque je lisais ça et là dans quelques feuilles, que ça allait faire haut, que ça ferait... Bon, bah, on vérifiera à Orange l'excellence de la santé de la Griffe, qui d'ailleurs fait l'objet de grands articles aujourd'hui dans la Dépêche du Midi, va en faire l'objet sans doute, ne seront-ils pas très favorable, je ne me leurre pas, dans France ce soir, bon, ou dans d'autres journaux, parce que demain, il y a un grand procès à Toulouse, c'est le procès de Sainte-Capote. En tout cas, nous avons là, une nouvelle fois, remporté une première victoire. Je ne sais pas ce que sera ce procès, je ne sais pas ce que sera le résultat de ce procès. Mais toujours est-il que les dirigeants de AIDE, qui organisent les défilés dits de Sainte-Capote, colossal finesse, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, je suis navré de parler de ces choses-là, ce sont des
des misérables qui se déguisent en religieuses, c'est très nouveau. Vous voyez, ça, c'est vraiment.
Oui, on faisait ça, je pense qu'à San Francisco, ils faisaient ça dans les années 70.
Oui, c'est ça. Ils n'ont jamais 30 ans. Il y a des tableaux de Clovis Trouille des années 20, oui, et voilà. Puis le Marquis de Sade.
Voilà. Alors, donc, défiler dans les rues de Toulouse, avec des préservatifs gonflés, tout ça pour conspuer le pape, enfin, une colossale finesse une fois de plus. Mais moi, je n'accepte pas. Parce que, l'on tourne là en dérision les religieuses, et je rappellerai demain devant le tribunal que ça a commencé comme ça avant de guillotiner les religieuses d'Orange et de Béthune, que pendant la guerre civile espagnole on faisait avant les abominations de tels défilés, ça a donné 7000 religieuses violées, massacrées, déterrées, hein, ça on le rappelle pas tellement souvent sauf dans le dictionnaire de la réplique, que ça a donné la petite Edith Stein qui a été arrêtée sous ce voile aussi, et donc voilà. Je dois dire que je suis indigné de telles choses parce que ces associations reçoivent de l'argent public, de l'argent des collectivités. Alors, elles sont mises à l'examen. C'est déjà un bon point. Il y a un juge d'instruction impartial qui a accepté la plainte de la DRIF. C'est pas le premier. Nous en avons eu déjà quand même quelques dizaines, il faut le dire. Ensuite, les dirigeants de AIDE ont refusé de se rendre à la convocation de ce juge d'instruction, prétextant qu'il n'irait tout de même pas, cet orgueil de classe à la convocation d'un petit juge provincial. Alors, le petit juge provincial leur a envoyé les gendarmes qui les a saisis en pleine réunion de leur association, ils ont été menottés et conduits à Toulouse, voir la ville rose à l'intérieur de leur cellule.
Comme un vulgaire journaliste d'extrême droite.
Alors, je dois dire que, bien sûr, cela les met dans un état d'indignation absolue, mais cette année, il n'y a plus de défilé de Sainte-Capote. Ils intitulent ça le retour de la capote. Bon, c'est très bien. Alors, leur histoire va finir par capoter. Mais je voudrais dire d'une manière plus grave, qu'il y a quelque chose d'indécent dans ce qu'ils font. Parce qu'il y a des gens qui sont malades du sida. Et quelle que soit l'origine de cette maladie ou les causes de cette maladie, tous sont dignes de commisération. Et le sida, il y a deux manières de le combattre et deux seules. La première, c'est de respecter la loi naturelle. C'est ce que le pape, mais pas le seul pape, c'est que les dignitaires juifs, musulmans, rappellent souvent. Donc, c'est la première chose. Et je ne vois pas pourquoi. Or, on se moque donc de la seule religion catholique, parce que tout de même, le défilé de Sainte-Capote, c'est autrement grave dans l'anti-christianisme que les simagrées de Monsieur Dieudonné dans l'antisémitisme. Mais Monsieur Dieudonné pouvait faire n'importe quoi contre le pape, les catholiques. La DRIF l'avait poursuivi, il a gagné son procès, c'était pas grave. Dieudonné ne s'attaquait qu'aux catholiques.
Comme son nom l'indique.
Il a eu le malheur de s'attaquer à une autre religion, et pourtant d'une manière moins grave, qui était, bon, je sais pas trop ce qu'il
est de la fête,
qui était confuse, incompréhensible, mais là, Monsieur Dieudonné était condamné. Alors, moi, je pense que la DRIF fait un travail là qui invite quand même les gens donc de ce style-là à réfléchir à deux fois. Mais surtout, c'est odieux pour les gens malades du sida. La seconde manière de combattre le sida, c'est les médicaments. Et j'ai donc demandé au juge d'instruction d'en savoir plus, et je demanderai demain au procès, l'argent que reçoit AIDE, vers quel laboratoire, vers quel médecin, vers quel chercheur, vers quel gens compétents pour combattre le sida, va cet argent. J'affirme ici qu'il y a un détournement, je l'ai fait en conférence de presse, un détournement de l'argent dont il devrait être consacré à la lutte contre le sida, comme il y avait détournement de l'argent qui devait être consacré à la lutte contre le cancer dans l'arc de M. Crosemary, bien oublié aujourd'hui.
Alors, en plus, il y a une chose qu'il faut quand même rappeler tout le temps, enfin moi je suis étonné que ça ne soit pas plus présent dans les esprits. C'est simplement une question de pure logique. Dire que le pape est responsable de l'épidémie de sida parce qu'il interdit le recours aux préservatifs, c'est totalement imbécile. Parce qu'on ne voit vraiment pas au nom de quoi des gens qui font des choses qui sont interdites depuis bien plus longtemps que le préservatif n'obéiraient pas à ça en continuant à coucher à droite à gauche, mais d'un seul coup, je dirais, ah oui, mais le préservatif, ça, non, pas question. Donc, c'est-à-dire, je couche avec des hommes, des femmes, je fais tout ce que
mais
je veux.
Mais comme le pape,
mais le pape
dit...
ne veut pas de préservatif, je ne mets pas le préservatif. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. C'est les gens me prennent pour des imbéciles.
C'est un détournement, c'est une manipulation.
Alors, il faut quand même savoir qu'un des grands responsables de ces mouvements, il a été démasqué d'ailleurs par l'association qui s'occupait de Beljanski, il y a déjà un certain temps. L'un des patrons de ces associations de d'homosexuels militants hostiles à toute forme de vie naturelle, enfin on peut dire les choses comme ça, était le propre fils du grand patron des laboratoires Wellcome Glaxo, qui sont les laboratoires qui fabriquent la trithérapie. Et c'est lui qui a mené le procès contre Beljanski. C'est-à-dire que c'est des gens qui, avec l'argent que leur donne la collectivité publique, financent des procès contre des chercheurs qui mettent au point des médicaments sans l'accord des grands laboratoires multimilliardaires en dollars qui font régner leur loi sur le marché de la santé. C'est invraisemblable, une affaire comme ça. Et quand M. Delannoy et les autres pédules de Paris décident de financer ces associations d'invertis, c'est avec l'argent des citoyens. Bon. Et dans le même temps, on nous fait un sidaton pour que les citoyens, dont les impôts servent déjà à financer des associations d'invertis, ça suffit pas, il faut en plus qu'ils donnent de l'argent à la caisse du sidaton pour faire la même chose. On est dans le délire.
Vous vous rappelez, Serge, que dans le Libre Journal, nous avons reproduit des extraits du journal d'une autre association de ce type, je veux dire ACT UP. Donc c'était un journal luxueux qui était publié donc avec l'argent public pour injurier la puissance publique, ce qui est quand même formidable, et qui de plus ramassait encore de la main gauche en passant des publicités pour des cassettes dont il vaudrait mieux que je ne commence pas, à les décrire, parce que là nous on serait sanctionnés immédiatement. C'était non seulement de la pornographie, bien entendu, non seulement de la pornographie homosexuelle, mais de la pornographie pédophile.
Ouais.
Dans le magazine d'ACT UP.
Alors Serge, je vous inviterai à parler de cela lors de notre journée d'Orange, puisque vous animez cette émission. Mais moi, c'est moi qui vous animerai à Orange, si je puis dire. Et je crois que on aurait dû vous faire citer à Toulouse pour donner ce témoignage. Enfin, j'essaierai de me faire l'interprète de ce que vous dites demain, si l'on veut bien m'entendre dans ce tribunal de Toulouse, qui encore une fois est difficile. Je le sais par expérience.
Alors, je voudrais quand même qu'on va parler d'Orange après pour annoncer exactement ce qui va s'y passer, mais je voudrais qu'on revienne sur la griffe. Bon, on a vu ce procès de la Sainte Capote à Toulouse. Quelles autres affaires sont en cours en ce moment à la griffe?
Écoutez, nous avons l'affaire de Montpellier. L'affaire de Montpellier, je ne peux pas la décrire ici, ça serait trop long et fastidieux, nous sommes là dans la technique, c'est l'affaire dite de Santa Susana. C'est-à-dire, pour résumer, des enfants des écoles, puisque on les a amenés à partir de l'âge de 12 ans, voir une fois de plus, sur une scène, des gens grimés en religieuse, un grand crucifix ostensible, ostentatoire, là, et puis on fait l'amour devant ce crucifix, et les religieuses se servent des religieuses entre guillemets. Bon, et je ne vais pas insister, tout le monde comprend ce dont il s'agit, d'un spectacle de pornographie blasphématoire.
Il y avait des enfants.
Oui, oui, bien entendu.
Et obligatoire. Et je ne pense pas que les enfants de 12 ans réclament
d'aller... Bien sûr. Donc là, nous sommes montés au filet, un peu tard. Je ne suis pas très optimiste, je le dis, parce que, hélas, l'avocat qui avait pris cette cause n'a pas su ce droit de la presse, parce qu'on est, pour les auditeurs, dans le droit de la presse, qui est celui de l'injure, la diffamation. Maître Méry pourrait, avec beaucoup plus de compétences que moi, parler de cela. Il a un peu confondu l'injure et la diffamation. Cela explique aussi que quelquefois, je ne veux prendre pour avocat que des gens d'expérience, tels que nos amis Georges-Paul Wagner, Valorant Saint-Just, Jacques Trémollet de Villers, bon, parce qu'ils ont l'habitude de ce genre de choses. Alors, un de nos avocats très bon, celui de Toulouse, Bonneau, qui est de plus un militant de la cause nationale, tout à fait actif, donc essaye de rattraper cette affaire. Si l'affaire vient à un jugement, comme on peut encore l'espérer, Je crois que ça sera un procès aussi très emblématique. Emblématique aussi, il faut bien le dire, d'une certaine inertie de ce peuple français qui accepte tout. Et là, je voudrais dire, quelquefois, bien sûr, je ne baisse pas les bras. Je suis, comme vous, autour de cette table, un combattant. Mais il m'arrive de dire, mais enfin, le problème, ce n'est pas l'ennemi. Le problème, ce n'est pas tellement ce qui nous envahit. Le problème, c'est notre lâcheté. C'est nous-mêmes. C'est dans notre peuple que sont les ferments de désintégration. Parce que des parents qui ne disent rien, un évêque qui se désolidarise, bien entendu, de la plainte de la griffe, hein, qui dit, lui, il ne trouve rien à redire. Donc, un évêque, son nom ne me revient pas.
Il dit, c'est tout à fait dommage que des intégristes,
c'est ça,
des associations d'extrême droite...
C'est le discours habituel, la récupération par l'extrême droite. Alors, nous avons aussi à Montpellier, il y a des villes, vous voyez, il y a eu une salve à Toulouse, c'est peut-être que c'est ma ville et je suis vigilant. À Montpellier, nous sommes partie civile dans l'incendie de l'église de Montpellier. Parce que là aussi, il s'agit d'une belle ignominie. Enfin, bon,
l'église Saint-Paul de la Paillade, je me permets de préciser. Également, le temple réformé.
Voilà. Alors, je dois dire que la dévastation a été écuménique pour une fois, mais on a assisté aussi là, à toutes les manipulations. D'abord, le clergé et le pasteur, ils ont rivalisé, ils se sont empressés de dire ce ne sont pas les musulmans. Ils savaient donc qui étaient les coupables, puisqu'ils savent que ce n'est pas un tel, ils savent donc que c'est un tel. Hein, je pense que Maître Mérine...
Étonnant, oui.
Hein, donc, ils commencent à dire cela. Moi, je n'en sais rien. J'ai dit ça peut être des extrémistes anarchistes, des satanistes, des extrémistes juifs, des extrémistes musulmans, des folles dingues, mais...
Des intégristes.
Alors, moi, je ne sais pas. J'ai donné une conférence de presse à Montpellier. On m'a dit, vraiment, vous ne savez pas. Comme si, moi, je savais le nom, la qualité des incendiaires de l'église de Montpellier. J'ai dit, non, mais je veux que cela se sache. Mais tout a été orchestré pour sous-entendre que l'incendie de cette église, c'était en vue de l'élection régionale qui arrivait, et que, naturellement, le Front National récupérerait l'indignation due à cet incendie.
Comme celle due à l'incendie.
Gros sabots, grosse ficelle. J'ai dit aux journalistes, aux misérables journalistes, mais tant qu'à faire, vous voudriez peut-être que je vous dise que c'est Alain Jamais, mon ami Alain Jamais, qui dirige le Front National, qui aurait fait cet incendie. Mais ils n'ont cessé, dans Midi Libre et ailleurs, de sous-entendre à qui le crime profite. Et le crime profite au Front National.
Mais 15 jours avant, on a brûlé à la Paillade une école maternelle. 3 semaines avant, on a brûlé un centre commercial. Ça profite au Front National, ça ?
Et donc, chaque fois qu'il y a un incendie, qu'il y a un crime, etc., ce n'est pas l'incendie qui est inquiétant. Ce n'est pas le crime qui est inquiétant. C'est que ça profite au Front National. Sinon, ça ne serait pas grave.
Alors, le regroupement familial,
si ça profitait
même chose.
À l'UMP...
C'est le Front National qui a opéré le regroupement familial pour s'assurer des voix.
Alors, la griffe, voyez-vous, bataille est bien. J'ai mené une réunion à Montpellier et malgré la période électorale, il y avait beaucoup de monde. Et nous allons expliquer le 3 avril à Orange. Donc, ceux qui m'entendraient et qui peuvent se déplacer peuvent venir. Ils peuvent d'ailleurs téléphoner à la griffe et obtenir tout renseignement sur cette journée. Elle commencera à 10h. Elle se finira par un grand dîner, un grand banquet. Et je suis très favorablement impressionné par l'afflux des inscriptions. Je crois que ça sera un repas de l'ordre de 500-600 couverts, donc très, très agréable et très, très militant. Mais dans cette journée, c'est une journée de travail, c'est une journée de travail dans laquelle nous allons essayer de donner à nos délégués, à nos responsables, un petit savoir-faire et puis surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il ne faut pas attendre de la griffe aussi ce qu'elle ne peut pas faire. Et par exemple, alors, j'y reviens, j'avais esquissé cela. Le triste, c'est que par exemple, dans le cas de certains crimes ou de certaines exactions, la griffe ne peut rien faire si les parents des victimes ne nous demandent pas leur assistance. J'ai eu une scène il y a peu terrifiante. Des parents sont venus me voir en disant notre petit à l'école et le subit des sévices. Et je crois que les sévices étaient très graves, de l'ordre de ceux de l'ordure Maurice Louis, là, que l'on juge en ce moment. Je leur ai dit, écoutez, qu'à cela ne tienne, venez tout de suite. La griffe prend en main la défense de votre gamin. Parce que ça rentrait vraiment dans le crime de. Dans le cas de crimes racistes aussi. Parce que c'est parce que le petit, il était languedocien et ses persécuteurs ne l'étaient pas. Bon, nous étions vraiment dans un cadre que le, sur lequel la GRIF pouvait agir. Mais les parents n'ont pas accepté de me suivre donc au commissariat pour enregistrer la plainte. Alors je les ai éjectés avec une grande fermeté. Et ça, c'est terrible, voyez-vous, parce que tant que ce peuple donc n'aura pas en lui le sursaut, hein, tant qu'il c'est bien qu'il y ait des électeurs. Dieu merci, je voudrais qu'il y en ait encore plus, mais ça ne suffit pas. Et c'est tout le problème de notre résistance.
Oui, mais là, vous aviez la possibilité quand même de pouvoir directement porter plainte pour, sur le thème de la personne en danger. Et là, il y a la dénonciation de tout crime est prévue dans le code de pénal. C'est-à-dire, dès qu'on a connaissance, un citoyen a la connaissance
c'est même une obligation,
d'un délit ou d'un crime...
Mais tant que, cher maître, tant que les parents ne veulent pas, je n'avais aucune pièce, je n'ai assisté à rien. Je n'ai que le témoignage.
Donc vous auriez été que témoin de témoin.
Excusez-moi, je sais cela, je sais parfaitement cela, mais n'étant que témoin de témoin, et je connais aussi la lâcheté de la police, on m'aurait dit... Allez donc vous occuper de Steve Ward. Voilà. Donc, je sais ce que vous dites avec raison. Cela dit, nous le rappellerons à Orange le 3 avril.
Ça fait 3 allusions à Orange, ou même 4. Est-ce que je peux expliciter un petit peu plus? Donc, Orange, dans le Vaucluse, le maire est M. Bompard. Il accueillera donc la journée nationale de rencontre de la GRIF, donc Association Générale contre le Racisme.
Alliance Générale.
Alliance Générale, pardon, contre le racisme et pour
le respect
défense
de l'identité française et chrétienne.
Voilà. Donc, c'est une journée de 10h à 20h. Et je voudrais dire à ceux qui nous écoutent nombreux dans le midi, ils auront certainement plaisir à pouvoir mettre un visage sur une voix, comme on me le dit à chaque fois que je fais des ventes publiques du Libre Journal. On me dit « Ah, seriez-vous, monsieur Goffman, quel plaisir de mettre un visage sur votre voix. » Donc, puisque donc Serge de Becquet, ici présent, y sera. Ce sera l'occasion donc de rencontrer, bien sûr, Bernard Anthony, Jacques Bompard, vos avocats, Maître Le Gril, Saint-Just,
Le Griel.
Pardonnez-moi. Maître Wagner.
Voilà.
Trémolette Villers.
Comment qui va voter national au premier tour et socialiste au deuxième?
Jeanne Smith de présent qu'on a entendu tout
ils
à l'heure.
C'est impossible.
Yves Daoudal pour National Hebdo et même François Foucard, pas pour France Inter et Radio France, il n'en est plus, mais enfin il a été le responsable de l'information judiciaire religieuse longtemps. Alors moi je regarde la carte de France et je vois que nos amis du Midi ils doivent savoir mieux que moi que Orange est juste au carrefour des trois régions de PACA, de Languedoc-Roussillon et même de Rhône-Alpes. C'est à l'intersection des autoroutes A7 et A9. Ça veut dire qu'y compris de Lyon, c'est un coup de voiture.
Mais vous avez compris pourquoi on organisait cela Orange, ma parole.
Ça y est, j'ai
compris. Mais ma parole, il est bon, le Goffman.
Voilà, un coup de voiture de Lyon et de sa région pour rencontrer en chair et en os toutes ces personnalités et bien d'autres et passer une journée agréable pour un prix dérisoire puisque c'est 25 euros repas compris. Et c'est 10 euros sans le repas. Et naturellement, vous aurez des stands de journaux
alors,
nationaux.
Alors, un petit mot, si vous
et des
si,
écrivains.
Un petit mot, cher Patrick, si vous permettez. Oui, pourquoi Orange, vous l'avez dit, pour des raisons évidentes qui s'imposent rationnellement. Parce que aussi, c'est la ville de notre ami Jacques Bompard, qui en tant que tel n'est pas de la GRIF, mais qui en tant que maire accueille un congrès. Donc, il sera là. Mais nous avons plaisir à être chez lui. C'est évidemment un ami politique très cher. Et puis, surtout, nous avons une conception. C'est que à Orange, Jacques Bompard mène une véritable contre-révolution intelligente sur le plan de l'urbanisme, de la culture, c'est un modèle. À côté, à Carpentras, notre ami Macari, qui est avocat, qui sera là, dont j'espère qu'entre-temps, il aura été élu au moins conseiller général, ce qu'il mérite bien. Je souhaiterais qu'il soit élu président de PACA. Ça semble plus difficile. Si ça dépendait de moi, il le serait. Mais enfin, il sera là. Mais surtout parce que nous allons faire travailler les commerçants de cette ville. Et je crois que là, il y a une déontologie. On va faire travailler des hôtels, on va faire travailler des restaurants, et un traiteur incroyable. Ça, je vous dois dire, on voit ce qu'est l'honnêteté professionnelle, parce que ce que nous sert le traiteur d'Orange dans ses dîners, c'est tout à fait exceptionnel, c'est sans équivalent en France. Voilà, il faut le dire, parce que je pense qu'il faut toujours renforcer les éléments de résistance. J'espère qu'un jour, on pourra faire une grande journée nationale de la griffe dans une ville de Bretagne, de Picardie, que sais-je, parce qu'on voit aussi des rayons de soleil. J'ai oublié de citer la Picardie tout à l'heure de mon ami Ligno, hein, quand même, qui remporte un score, et puis c'est la région de Carland dans le nord. Et je pense bien que nous organiserons d'autres journées comme celle d'Orange, mais nous avons un très bel outil à Orange, il faut le dire. C'est une salle des fêtes qui se prête admirablement à ce genre de travail. Voilà pourquoi tout converge pour que nous fassions une journée d'amitié et une journée très militante et très combative.
Et moi, j'ai seulement oublié le numéro de téléphone après qu'on a bien mis l'eau à la bouche des auditeurs. 01, donc pour les réservations, 01 40 46 96 31. Je répète à toute vitesse pour que vous ne puissiez pas noter, 01 40 46 96 31.
Oui, plus lentement quand même, parce que là...
Donc, on va peut-être poser les questions des auditeurs, ma chère Victoria, vous voulez ou pas? Non, elle n'a pas l'air d'avoir envie de parler, je pense. Elle n'est pas une boudeuse.
Je suis passée... C'est des commentaires pour monsieur Anthony. Je suis passée dans le 11e arrondissement, il y a une école primaire publique, et en face, une librairie lesbienne et gay... Toutefois, sans photo extérieure. Mais pourquoi pas un sex shop?
Non, mais ce qui est amusant, c'est que... Effectivement, ça pose une vraie question, puisque la loi interdit l'ouverture d'un café à moins de 150 mètres d'un établissement d'enseignement ou d'ailleurs d'un établissement religieux. Alors ça date de l'époque où vraiment l'alcoolisme était un fléau, où il y avait le soir des pochetrons qui rentraient chez eux en zigzagant et tout, ça pouvait choquer des jeunes enfants. Mais maintenant, bon, il n'y a plus trop de pochetrons dans les rues, hein. C'est vrai que l'alcoolisme est devenu une activité plutôt privée. Et en revanche, on devrait étendre cette loi de préservation des sites et de préservation de la pudeur des enfants à d'autres activités.
C'est le contraire qui est étendu par ce gouvernement. C'est très exactement le contraire. C'est que aujourd'hui, les maisons des gays et lesbiennes sont financées par les collectivités régionales. Et par exemple, par le conseil régional de Midi-Pyrénées, mais je crois savoir c'est la même chose en Languedoc. Non, peut-être pas, c'est en PACA. Certainement en région parisienne.
En région parisienne, Copé a déjà dit... Mais la première mesure qu'il prendrait après son élection, ce serait d'organiser une campagne de sensibilisation des enfants des lycées et collèges à l'homophobie.
Eh bien, voilà ce que je vous disais. Non seulement les maisons des gays et lesbiennes, on ne les éloigne pas des écoles, mais on les fait rentrer dans les écoles. Et voilà pourquoi ce gouvernement dit de droite, donc poursuit ce que j'ai appelé dès 1976, on me prenait à l'époque pour en piquer le génocide français, ils sont les acteurs du génocide français. Et voilà pourquoi aussi je continuerai à me battre, parce que je ne suis pas particulièrement un moraliste, je ne suis pas particulièrement un amateur de lits de vertu, mais il y a des choses fondamentales pour la survie d'une civilisation et surtout pour effectivement l'avenir des enfants qu'il s'agit quand même de respecter. Alors, il le sait aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la vieille gauloiserie d'Henri IV qui m'est chère, nous sommes dans la dégueulasserie. Et c'est pour cela que je me battrai en politique sur ces questions morales aussi. Parce que là, il ne s'agit pas de la morale encore une fois, de lits de dérisoire, il s'agit vraiment d'une question de survie pour notre civilisation.
Où peut-on acquérir le dictionnaire de la réplique? Quel est son prix et quel est son auteur?
Je peux vous répondre au 70 boulevard Saint-Germain, chaque après-midi. 70 boulevard Saint-Germain, dans le 5e, métro Maubert Mutualité. Le prix, eh bien, je ne m'occupe jamais des questions financières chez moi, je l'ai oublié. Je crois que c'est 42 euros, c'est un très gros livre, et troisième retirage. Son auteur, non, il y a ses auteurs. J'ai été le concepteur, le coordonnateur, le maître d'œuvre, c'est mon ami Yves Daoudal, qui a beaucoup travaillé, avec Jacques Le Morvan, qui a fait, je crois, une très belle présentation de ce travail. Mais il y a Jeanne Smith, qui a joué un très grand rôle, Georges-Paul Wagner... d'autres encore, je ne vais pas tous les citer, on le trouve...
Non, je vous en prie, Bernard.
Ah, oui, oui.
Vous faites des mimiques, parce qu'il faut quand même en citer quelques-uns.
Oui. Quelquefois, je peux avoir un trou. Alors, j'étais en train de citer le professeur Jacques Corraz, sur le plan de la psychologie, le psychologue Jacques Benesto.
Qui avait fait ce bouquin formidable.
Sur les mensonges freudiens. Hugues Petit, dont le conseiller régional, professeur à l'université de Grenoble. Bon, je crois en avoir cité un certain nombre, mais je ne vais pas y arriver. De mémoire, vous savez, j'ai des trous de mémoire, c'est tragique. Je suis vieux, Serge Beketch, c'est vrai.
Alors, on rappelle que le dictionnaire de la République est une espèce de catalogue des réponses qu'on peut apporter.
Nous avons voulu collecter les mensonges qui me paraissaient les plus gros, les idées reçues, les lieux communs du politiquement correct et décocher des flèches. Et donc nous avons travaillé effectivement avec une équipe restreinte, dont les premiers que j'ai cités, hein, nous sommes déjà, notre éditeur Richard Haddad nous a conviés bientôt à une réunion de travail, agréable d'ailleurs, parce qu'on va fêter le succès du dictionnaire tout de même, et nous allons entamer une seconde édition, non pas une édition, mais le second dictionnaire, parce qu'il y a autant de répliques à faire qu'il y a de mensonges qui courent.
Pour ceux des auditeurs de Canberra ou de Tokyo ou de Los Angeles qui n'auraient pas accès au métro et à Maubert Mutualité, naturellement, il y a librairienationale.com et d'autres,
oui, bien sûr,
d'autres librairies de vente par correspondance.
Bien sûr, il y a la librairie du Ken, etc.
D'autres questions, Victoria ?
Oui. Les militants du Front étaient très nombreux avant la rupture Front National MNR. Je faisais partie de ces militants très actifs qui ont été déçus et écœurés par ce qui s'est passé. Nous étions des milliers et aujourd'hui, il ne reste presque plus personne à qui la faute. C'est la réponse à ce que vous disiez tout à l'heure sur le manque de
militants. Oui, je ne suis pas sûr. Je crois qu'effectivement, comme toujours, c'est la vie. Mais il faut oublier ces choses-là parce que les nuages noirs s'amoncellent. Et ma foi, ce que je dis à ce militant, c'est qu'il y a toujours moyen de combattre. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Moi, je crois à la loyauté. Hein, on exprime, on fait en sorte que les choses s'améliorent, mais il y a toujours un créneau à occuper. Et je crois qu'on a la conscience tranquille tant qu'on occupe un créneau.
Mais il y a un exemple de ça. C'est un auditeur qui nous envoie un message dans lequel il dit des listes nationales dissidentes du FN qui au premier tour ont fait des voix, j'espère, dit-il, qu'elles auront l'intelligence de voter au second pour le mieux placé. En Alsace par exemple, où je réside maintenant, il y a Alsace d'abord qui fait 10% et le FN fait 20%. Ils prônent la régionalisation et dit-il, ils ne veulent plus être aux ordres des partis parisiens. C'est pas une raison pour ne pas rassembler les votes au deuxième tour.
Bah oui, c'est ce que je crois. Je peux parler d'une manière très simple. Je suis très attaché à l'Alsace parce que pendant 15 ans j'ai été au Parlement européen. Je regrette toujours de ne plus y être. C'est comme ça. J'espère bien y revenir un jour. Je suis allé en Alsace récemment, soutenir Patrick Binder, bien entendu. Mais Monsieur Spiller, avait quitté le Front National, j'allais dire loyalement. Il était en désaccord, il avait d'autres objectifs, il n'a pas mené de... Il est parti. Bon, mais beaucoup de choses me séparent de lui, car il est un peu de la mouvance qu'on a appelée à une certaine époque le Nouvelle Droite, quoi qu'il ne soit pas du tout un païen haineux, mais quand même, beaucoup de choses nous séparent. Mais enfin, beaucoup de choses nous rassemblent. Et les gens qui votent Spiller aiment leur Alsace. J'en suis convaincu. Donc, s'il y en a qui m'entendent, je leur dis, mais enfin, tout de même... Hein, l'ennemi est là, vous le voyez. Alors donc, il faut voter au second tour pour Binder. Et c'est vrai, je l'espère, pour toutes les petites listes dissidentes, comme dit cet auditeur, qui ne représentent pas grand-chose, il est vrai. Mais chaque voix compte et ils doivent voter donc partout pour les candidats du Front National.
Que pensez-vous de ces églises orthodoxes que les cafards albanais incendient ? Les suites, que pensez-vous aussi, des suites des attentats contre le préfet musulman, prétendument perpétrés par les néofascistes ? La disparition soudaine des médias de l'affaire Dutroux et l'affaire AZF psychodrame aussi grotesque que suspect.
Oh là là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cela, je vais essayer d'être bref, parce que
c'est le sommaire d'un
après
magazine.
Moi, oui, parce que là, il y aura une conférence de 2 heures. Alors, pas de question de cela, mais je vais répondre. Ce que je pense des cafards, dit-il albanais, qui incendient les églises orthodoxes en Serbie, c'était au Kosovo, qui était très belle, c'est exactement ce que je pensais des Serbes qui incendiaient les églises catholiques que j'ai visitées en Croatie et ailleurs. La même chose. Et surtout, je ne peux pas ne pas évoquer ce jour où j'ai reçu au Parlement européen les responsables serbes qui voulaient anéantir la Croatie. Ils voulaient faire la guerre. Je leur ai dit, messieurs, hein, au lieu de vous soucier d'une rivalité absurde, séculaire, alors que vous êtes de la même civilisation, fondamentalement, malgré sa différence catholique et orthodoxe, vous feriez mieux de vous soucier de ce qui se passe dans votre Kosovo, au cœur de votre civilisation. Ils m'ont répondu, on réglera cela. Je leur ai dit, messieurs, on sait comment commence une guerre, on ne sait pas comment elle se termine. Ils ne se sont pas occupés du Kosovo, mais demain en France. Alors, bien sûr, au Kosovo, je suis pour les Serbes, hein, que cela soit clair. J'ai combattu le régime communiste de Tito, j'ai soutenu la révolte nationaliste croate comme je le pouvais, avec Chrétienté et Solidarité, quand même 30 camions de transport chargés de médicaments, de vivres et autres, certaines époques. Mais il va de soi que ce qui est tragique, c'est que c'est la bataille des ventres qu'il a emportée au Kosovo. Et la bataille des ventres a été défavorable aux Serbes. Mais demain chez nous, combien de Kosovo ?
Réponse à ce qu'on a dit tout à l'heure, les parents qui ne protestent pas contre la librairie lesbienne face à l'école de leurs enfants sont des lâches et donc des complices.
Exactement.
Le christianisme est la force de l'amour, mais l'islam est l'amour de la force. Les Français, ayant renié l'obéissance au christianisme, récolteront la violente domination de l'islam.
Bon, j'espère que cet auditeur qui a une très belle formule se trompe, parce que je pense qu'il espère se tromper lui aussi. On fera tout pour ça, en tout cas.
Un auditeur vous demande, pourriez-vous nous éclairer sur la personnalité de Charlier, d'où votre centre tire son nom ?
Ah, oh là là, une autre fois, parce que je crois qu'avec Serge, on va faire une émission un jour un peu originale. Henri et André Charlier étaient deux hommes assez obscurs, mais des hommes de grande influence. L'un a été un magnifique sculpteur. Alors, naturellement, il n'était pas dans les salons parisiens, un peintre, un musicien. Mais on peut aller à Montréal voir les œuvres de Charlier, à la Bourboule, ses chapiteaux. Donc, voyez-vous, un artiste. Henri Charlier, son frère, André Charlier, son frère, a été le directeur de l'école des Roches, replié à Maslac, dans Montbéarn, pendant la guerre. C'était une école admirable, où l'on a vu des élèves ou de jeunes professeurs qui s'appelaient Jean Madiran, dont Gérard, et donc un homme d'une grande élévation de pensée. Cette
il
école...
a écrit un livre que tous les garçons de 15 ans devraient lire qui s'appelle Lettre au capitaine.
Lettre au capitaine. Voilà. Donc, des hommes peut-être pas de premier plan médiatique, mais de premier plan spirituel.
La théorie selon laquelle un contexte tendu verrait le renforcement du Front National ne tient plus. 200 morts à Madrid, des menaces terroristes sur la France, du vent dans les voiles islamiques et l'impuissance manifeste de Sarkozy. Et puis plus rien, à gauche toute. Et si les Français étaient bêtes ? Je modère l'expression.
C'est-à-dire, on fait tout, sauf à cette radio, sauf au libre journal de Serge de Beketch, sur lequel, d'ailleurs, on va parler beaucoup dans la prochaine revue de Reconquête. Je crois qu'on va pouvoir savoir qui est Serge de Beketch un peu mieux, parce qu'on l'écoute beaucoup, mais on ne le connaît pas très bien. Eh bien, dans la prochaine livraison de Reconquête, il y a un grand entretien avec Serge de Beketch, mené par Jean Le Vigan.
On va encore dire des choses.
Alors, les Français... Il faut dire qu'on les abétille aussi et qu'ils ont quelques excuses, ce pauvre peuple qui chaque soir avale ce qui est diffusé à la télévision, c'est quelque chose qui, je crois, peut entraîner un peu de commisération. Il ne faut pas mépriser son peuple.
Voilà. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Non, ça c'est une question pour notre invité d'après.
Invité sur RMC, demain entre 16 et 17 heures, j'aurais besoin que vous... Ça c'est un service personnel que cette auditrice vous demande. J'aurais besoin que vous me disiez si c'est bien Juppé et Chirac qui ont décidé la guerre en Serbie.
Écoutez, ils ont pas... participé. La guerre en Serbie, attention.
On a envoyé des troupes dans le cadre d'une mobilisation.
On a envoyé des troupes dans le cadre. Oui, on répond la même chose.
Ils ont décidé de se soumettre, si on peut.
Oui, ils pouvaient parfaitement, comme il l'a fait d'ailleurs, comme Chirac l'a fait pour l'Irak, ils pouvaient parfaitement dire nous, au nom de nos alliances immémoriales, notamment avec les Serbes, nous ne considérons pas que nous sommes
tenus de leur donner le coup de pied de l'âne.
Ça, si les Allemands veulent une fois de plus aller tuer du Serbe, c'est leur affaire. Les Français n'ont pas à le faire. Bon, on y est allé pour des raisons qui sont des raisons ignobles, bien entendu. Et voilà. Mais ça, c'est mon opinion. Je sais que Bernard n'est pas tout à fait d'accord
sur cette question. Non, mais je crois qu'avec un regard sur le passé, nous convergeons aujourd'hui. Nous avons eu Serbe. Ouais, c'est vrai que nous avons eu des différences sur le sujet. Oui. C'est pas pour ça non, que nous sommes
pas,
fâchés.
On ne s'est pas entrigorgé encore.
On est arrivé à ne pas se fâcher souvent et pas longtemps.
Oui, jamais très longtemps.
Jamais très longtemps.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Alors, Bernard, vous ne partez pas parce que...
Non, parce que je voudrais
que vous soyez...
Et Nicole Ferrandi.
Témoin de l'intervention de Bernard Méry, qui est intéressante. Pardon. Parce que j'ai reçu Maître Bernard Méry il y a un an, dans une ambiance d'accablement, puisque Maître Bernard Méry était tout simplement condamné, on peut dire, à la misère.
À la peine capitale.
À la peine capitale professionnelle. Vous étiez radié.
Radié, oui.
Du barreau. Vous ne pouviez plus exercer votre profession d'avocat. Alors, maintenant, je vous donne la parole. Comment se sont passées les choses?
Je vais le rappeler, mais d'abord, je voudrais, si vous me permettez, dire un petit mot à Bernard Anthony, parce que aujourd'hui est un jour important, puisque vous savez, ou peut-être certains des auditeurs s'en souviennent, j'avais parlé de l'affaire du Père Salleron. Ce prêtre qui est poursuivi pour viol de 3 jeunes filles qui disent qu'ils n'ont jamais été violées. Et qui ne se souviennent pas d'avoir été volés et qui remercient le Père Salleron pour le bienfait qu'il a pu leur faire à leur âme. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que je suis quand même pas complètement étranger à ce qui s'est passé aujourd'hui devant la chambre de l'instruction de Versailles. C'était la contestation du renvoi en cour d'assises du Père Salleron. Compte tenu de l'absurdité totale de cette ordonnance. Mais, là où ça rejoint directement le combat de Bernard Anthony, c'est que vous parliez tout à l'heure de la dérision du religieux actuel qui se passe en France, et je dois dire que le Père Salleron, comme moi-même, nous sommes bien seuls actuellement à défendre une dérision du religieux. Et cette dérision du religieux, ce sont justement les magistrats de la cour d'appel de Versailles qui se moquent du Père Salleron au motif qu'il croirait au diable et qu'il croirait au démon. Et que, croyant au démon et poursuivi par un autre abbé qui s'appelle Trousselard, qui est franc-maçon, mais qui est également fait partie de l'UNADEFI, vous voyez, l'UNADEFI, qui est partout dans ces histoires de sexe, et qui, voyez-vous, qui par leur intervention donne la notion de secte alors qu'il n'y a pas de secte. Car on arrive dans cette histoire à faire une secte tout seul à un seul abbé. Ce qui est contraire aux 10 principes que tout le monde connaît, qui ont été définis par le rapport Guesse-Guyard, je crois, j'écorche un petit peu le rapport. Or, actuellement, on reproche à un prêtre, et c'est un autre prêtre qui le reproche, et vous parliez tout à l'heure des évêques qui se désintéressaient totalement de la question, on reproche à un prêtre de croire au diable. Alors que des milliers de chrétiens, même œcuméniques, disent tous les jours « délivre-nous du mal ». Alors je ne dis pas que moi j'y crois, et je ne dis pas ça, mais je reconnais le droit au Père Salleron de croire au diable et de croire également qu'il peut le délivrer au travers de l'exorcisme, car ce n'est pas le Père Salleron qui a inventé l'exorcisme, c'est bien l'Église.
Enfin, moi j'irais, si vous permettez, tout petit peu plus loin que vous, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne croit pas au diable ne peut simplement pas être prêtre de Jésus-Christ, parce que dans l'Évangile, c'est bien le diable qui se manifeste.
Eh bien, c'est bien ce que dit le Père Trousselard, qui a étrangement une oreille totale des autorités de justice, qui lui donne du titre qu'il n'a pas, et voilà un abbé, tout bêtement un prêtre, j'allais dire, dont la fonction réelle est d'être documentaliste sur les sectes au diocèse au diocèse de Soissons.
Oui, ça c'est de la boutique, ça, vous ne pouvez pas reprocher au diocèse de combattre la secte, secte conciliaire.
C'est pas ça, c'est que la cour lui donne un autre titre, qui est le représentant de l'épiscopat français sur la France contre les sexes et sur le diocèse de Soissons. Vous voyez la nuance on lui donne du national et du local. Tout cela pour combattre...
Mais lui, il ne croit pas au diable, alors.
Et qui, bien entendu, ne croit pas au diable, puisqu'il attaque. Il attaque le prêtre en disant qu'on raconte des stupidités à des gens pour... Alors, je voulais dire, quand vous parliez tout à l'heure de notre isolement, je vois que, pour l'instant, personne, à part moi, bien entendu, et les avocats... Un avocat, je suis allé chercher à Béziers pour le défendre, voyez-vous, parce que personne ne voulait le défendre. Je dois dire, d'ailleurs, j'en profite pour dire que les Wagner et les autres, on ne les voit pas dans ce genre d'affaires.
Non, mais est-ce qu'ils ont été sollicités?
Maître, si vous permettez, je ne veux pas, ça ne risque pas, parce que Georges-Paul Wagner, qui est un homme admirable, tout simplement, est à la retraite. Alors, je ne vois pas
comment... C'est un bon motif dans cette affaire.
Oui, c'est un bon motif. Je ne savais pas, parce que c'est récent.
Oui, non, il ne faut pas dire des choses comme ça.
C'est récent. Non, mais je dois dire que...
J'ai l'habitude de défendre mes amis, et quand ils ne sont pas saisis, alors là, non, là, vous faites
quelque
chose...
Alors, il a été saisi par moi-même, mais il ne m'a pas répondu.
Voilà. C'est parce qu'il est en retraite, probablement.
Non, c'est pas dans des choses qui sont comme ça.
Je sais, mais bon...
Je vous écoute avec un grand plaisir, mais vous m'obligez, là. Vous savez, je suis toujours solidaire.
Alors, on va parler de moi-même, mais si vous voulez, parce que...
Et sans lâcher de nom, comme nous en étions convenus, n'est-ce pas?
Sans lâcher de nom.
Continuons à ne pas lâcher de nom.
Bien entendu, on va essayer de ne pas lâcher. Ce qui est certain, c'est qu'il y a à peu près 42 000 avocats en France. Et que pour l'instant, il n'y a pas un seul qui me défende. Mais que sans avoir un seul avocat qui a accepté de me défendre, comme il n'y a pas non plus d'avocats qui veulent défendre le père Salleron, je fais la liaison parce qu'on est dans un cas, et le père Salleron, il acceptera que je parle de lui. J'espère, tout au moins.
Ah bon, son affaire a été suffisamment médiatisée. Voilà. Moi, je l'ai rencontré, j'ai vu la souffrance de cet homme qui était quelque chose d'effrayant. Enfin,
c'est une souffrance effrayante.
C'est épouvantable.
Et c'est vraiment, quelquefois, on dit, c'est un peu... on lui reproche, vous savez, lorsqu'on dit « laissez venir à moi les petits-enfants » et qu'à partir du moment où ce prêtre va prendre des enfants comme ça et leur mettre la main sur la tête pour leur dire « laissez à moi venir les petits-enfants », alors vous avez... un juge d'instruction qui va le poursuivre pour attouchement sexuel.
Oui, mais on est dans le domaine de la...
On est dans le... Alors, je dois donner comme une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est que voilà un prêtre qui est renvoyé aux assises, parce que c'est toujours drôle, évidemment, de pouvoir attaquer l'Église catholique. Parce que là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être Église catholique contre Église catholique. Hein? Car d'un côté, vous avez Trousselard qui est officiel... et dont on se soucie peu, et ça pour faire une allusion au droit canonique de l'article 1717 du droit canonique, qui dit que l'ordinaire, c'est-à-dire l'évêque, est seul apte à pouvoir désigner quelqu'un de faire une enquête, et voici un homme à qui on a supprimé, l'ordinaire lui a supprimé son mandat dans ce dossier en 1991, et qui tout seul prend l'initiative de conduire un autre prêtre aux assises, pour lui reprocher de croire au diable. Voilà. Alors, revenons à mon histoire.
C'est tout à fait intéressant. Vous avez ouvert il y a quelques années un combat très courageux, il faut bien dire, par deux livres.
J'ai écrit en effet deux livres. Le premier livre, c'était Justice, franc-maçonnerie, corruption. Vous voyez à quel point ce titre était un petit peu explosif à l'époque. Et ensuite, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelait Les Nouveaux Parrains. Les Nouveaux Parrains, évidemment, il s'agissait uniquement de parler de ce qui se passait au sein de la justice. Mon débat n'était pas, évidemment, d'attaquer systématiquement la franc-maçonnerie, c'était simplement de dire que je respecte parfaitement la liberté de gens de croire à cette idée, j'allais dire, humaniste de la franc-maçonnerie, mais... ce que je n'accepte pas, c'était la déviation qui faisait que, parce qu'on appartenait à ce club fermé et secret, on pouvait obtenir des avantages par le détournement de la loi. Et ce qui se passe tous les jours. Je vous donnerai, par exemple, une dernière... Alors, voilà. Il y a donc un an, j'étais devant vous, plus d'un an. C'était exactement en décembre 2002. Nous sommes maintenant en mars 2004. Je venais, j'étais radié. J'étais radié, pourquoi ? Parce que j'avais écrit ces deux livres et parce qu'on avait réuni 18 poursuites contre un seul homme, ce qui voulait bien dire qu'une seule ne suffisait pas. Et ces 18 poursuites ont fait l'objet donc d'une radiation avec le terme « tous ces faits sont contre l'honneur ». Dès lors qu'ils sont contre l'honneur, ils ne sont pas amnistiés. Dès lors, j'allais dire, cet avocat doit être radié. C'est-à-dire, on ne vous dit pas tel et tel fait. Et tout à l'heure, je prendrai l'exemple d'un fait pour que vous puissiez comprendre qu'il y avait manifestement un autre objectif que de vouloir radier un avocat dont on reprochait qu'il défendait trop ses clients parce que j'allais jusqu'au bout, j'allais dire, de la loi qui nous est permise actuellement, et la loi européenne, vous disiez tout à l'heure que vous faisiez partie du Parlement européen.
Oui, mais ce n'est pas ma loi, hein, je le précise tout de suite.
Non, mais tout le monde sait que la Convention européenne des droits de l'homme a un article 13 qui dit que n'importe qui... On a le droit de pouvoir, c'est-à-dire de faire porter devant un tribunal un cas qui intéresse une personnalité, même si cette personnalité exerce des fonctions officielles. C'est-à-dire qu'on peut poursuivre un magistrat qui aurait commis un préjudice à l'encontre d'un justiciable.
Ce que la magistrature française récuse catégoriquement.
Alors, justement, un des motifs principaux de ma radiation, c'est que, alors c'est extraordinaire, sans faire du trop de juridisme, il est contre l'honneur pour un avocat que de prétendre qu'un magistrat pourrait commettre des faits contre l'honneur. Alors, vous suivez la phrase, il est contre l'honneur pour un avocat de prétendre qu'un magistrat pourrait commettre des faits contre l'honneur. Alors évidemment, on ne parle pas de ce magistrat qui était, je ne dirais pas le nom, je ne donne pas de nom, de celui qui était quand même à Aix-en-Provence, qui avait volé les meubles de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour meubler sa maison. On ne parle pas de cet avocat général de Versailles qui a été éjecté très vite pour pédophilie. On ne parle pas, et on pourrait donner la liste.
Des écoutes téléphoniques au tribunal de Caen.
Oui, mais ça encore, c'est j'allais dire, c'est dans le domaine de la loi et une sortie de la loi. Tandis que là, ce sont des gens qui ont fait des faits contre l'honneur. On ne parle pas de ce procureur de Bobigny qui recevait des enveloppes, qui vient d'être radié, lui aussi, mais parce qu'il recevait des enveloppes pour pouvoir régler les cas. Alors, on ne parle pas de tous ces faits. Il est absolument, et voyez-vous, on va peut-être encore être attaqué, qu'il est contre l'honneur de prétendre qu'un juge, qui est un être humain comme tous, peut être également aussi bas qu'un être humain vulgaire, du vulgus, et qui peut lui aussi commettre des faits contre honneur.
Mais ça, toutes les personnes qui ont eu affaire à des avocats savent très bien, moi ça m'est arrivé, de dire à l'avocat, écoutez, j'aimerais bien, ce magistrat m'a déjà condamné deux fois, il est prévenu contre moi, c'est évident, donc il faut le récuser.
Ne confondons pas la récusation.
Non, mais j'entends bien. Mais quand vous avez déjà un avocat qui vous dit, attendez, une récusation, vous trouverez quelqu'un d'autre pour la faire, moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le faire. Donc quand on a, alors que c'est une mesure de droit banal. On imagine très bien que quand il s'agit d'autres... que si l'avocat ne veut pas récuser, c'est parce qu'il craint des représailles. Et alors évidemment, dans une affaire comme la vôtre, alors il craint pas des représailles, il craint littéralement un assassinat.
Alors, justement, parmi les autres faits qui m'étaient reprochés, c'était justement de manier la récusation. Et on disait que, attendez, j'ai fait peut-être 10 récusations dans ma vie d'avocat, que cet avocat manie la récusation de façon habituelle et outrancière. Autrement dit, vous jugez d'un article du code, et je me dis toujours, mais de quoi craignent ces magistrats récusés, puisqu'il y a des juges qui vont statuer sur la validité de la récusation. Autrement dit, si les moyens de récusation ne sont pas bons, il appartient au juge de débouter le demandeur à la récusation, et éventuellement de condamner le demandeur, c'est-à-dire le client, et pourquoi pas l'avocat, à des dommages et intérêts. Voilà. Or, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'était de radier l'avocat, donc de le faire taire. Alors, j'avance un peu dans le temps, car 3 mois plus tard, au grand étonnement général du barreau de Paris, la cour d'appel de Paris, parce que aussi j'avais réuni une salle archicomble, c'était la salle de Pétain, où Pétain avait été jugé, vous savez, cette belle salle, la première chambre, où les gens se précipitaient à l'extérieur et venaient sur tous les gradins, et j'avais été voir le président lui disant, attention, dans la salle, vous avez le barreau allemand qui est là, ainsi que le barreau suisse en tant qu'observateur. Et manifestement, ça a quand même marché, parce que la Cour a réduit la peine de radiation à 2 ans de suspension, dont 1 an avec sursis. Voyez-vous, 1 an avec sursis, il n'y a plus de 2 cabinets, et puis il y a encore l'épée de Damoclès. S'il continue à travailler et qu'il ne fait pas uniquement du recouvrement de créances, eh bien, on va le tuer à vie. Alors, chose extraordinaire que je dois dire quand même, c'est que ce président très célèbre et très connu, on ne va pas dire de nom, mais qui est de la première chambre, qui a un parcours extraordinaire.
Très obscur ce que vous nous dites.
Il est très célèbre et très connu dans son parcours parce que on connaît actuellement le directeur juridique du FN qui était autrefois avocat, qui ne l'est plus. Et je me souviens d'avoir vu, moi, ce fameux président dans son cabinet en train de négocier sa future promotion en contrepartie d'un non-lieu, parce qu'il était juge d'instruction au départ. Et il avait, en effet, accepté ce non-lieu pour un quelqu'un de célèbre. On ne va pas dire le nom.
On ne dit aucun nom.
Voilà. Et ce fameux magistrat a eu sa promotion, qui était de premier président d'un tribunal. Puis ensuite, il est devenu premier président de la Cour.
Voilà, il a fait une belle carrière.
Très belle carrière. Maintenant, il est tout à fait au sommet de la première chambre A. Voilà où nous en étions. Et tenez-vous bien, ce président fait la démarche auprès de l'avoué à la Cour qui chargeait de mon dossier, ainsi que de mon avocat. Il y en avait quand même un qui était là ce jour-là. Et pour lui dire, surtout, vous dites à Bernard Méry de ne pas aller en cassation, ne pas faire son pourvoi en cassation. Bien entendu, le genre de choses comme ça, je me dis, s'ils craignent que je vais au pourvoi en cassation, eh bien, je vais immédiatement faire mon pourvoi. J'ai donc fait mon pourvoi et un tonnerre immense a résonné le 16 décembre. Tenez-vous bien, la date est importante, le 16 décembre 2003, c'est-à-dire à un jour avant l'anniversaire qui était du 17 décembre 2002, voyez-vous, la Cour de cassation, chose rarissime, rend un arrêt en trois mois. Ce qui démontre, voyez-vous, qu'il y a deux clans. Il y a le clan des juristes, des gens honnêtes, qui n'établissent que en fonction du droit, et les autres. Eh bien, cette cour, présidée, je vais dire un nom, parce que là, on peut dire quel est le président de cette cour, puisque tout le monde connaît l'arrêt, qui est M. Jacques Lemonté, qui est un homme extraordinaire.
Je ne sais pas si vous venez de lui rendre service, mais en tout cas, c'est dit.
Non, c'est un homme extraordinaire. Et c'est un homme qui est au bord de la retraite, qui a 65 ans, et qui se moque, justement, de la promotion, et qui ne court plus aux médailles. Eh bien, cet homme a rendu un arrêt, et là, c'est extraordinaire. D'abord, il casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. En toutes ces suppositions, vous me direz, c'est banal. Non, il va plus loin. Il évoque, c'est-à-dire qu'il juge lui-même directement les faits de la cour de la première instance, c'est-à-dire de l'arrêté du Conseil de l'Ordre de Paris, et élimine 14 poursuites sur 18 au motif qu'elles étaient déjà éteintes, tenez-vous bien, déjà éteintes au moment où on se servait d'elles pour me radier. Dès lors, je viens, moi, immédiatement demander à l'ordre, bah, écoutez, ça y est, votre arrêté est caduque, puisque vous avez un article, et là, je ne veux pas embêter tout le monde, mais l'article 627 du Code de procédure civile qui dit qu'à partir du moment où la Cour évoque, il y a une exécution forcée et que, bien entendu, il n'y a plus de fondement juridique à cette première décision. Réponse de l'ordre, non. Vous restez radié pour nous, vous restez interdit. Et vous n'avez pas le droit d'exercer, et si vous exercez, eh bien, vous serez poursuivi pénalement en justice pour exercice illégal de la profession. Alors, j'en suis là, mais bien entendu, l'horizon est prêt, on voit déjà l'aube qui se lève, puisque mon affaire vient devant la Cour d'appel de Versailles le 19 mai prochain, et que si on suppose qu'il y a un mois pour rendre un arrêt, le 19 juin, je reprendrai la robe. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le lendemain de l'arrêt de la Cour de cassation, le parquet général a envoyé un télégramme, tenez-vous, moi, ma petite personne, le petit avocat, à toutes les juridictions de France et d'outre-mer, pour dire, si vous voyez Méry plaider devant vous, surtout rappelez-vous qu'il est toujours suspendu. Quel honneur pour moi, mais quelle crainte! Il est évident que c'est vrai que beaucoup de magistrats, je viens d'apprendre qu'un magistrat, je ne donne pas toujours pas le nom, venait d'être suspendu encore à la suite de ce que je venais de faire.
C'est une très belle histoire parce que ça montre quand même, quand on nous dit, mais vous nous enquiquinez avec votre franc-maçonnerie, qu'est-ce que vous racontez? C'est pas dangereux, c'est des. Bon. Voilà un très bon exemple de la puissance formidable de cette secte. Parce que là, on a une preuve. C'est absolument patent. La seule chose qu'on peut vous reprocher, enfin qu'il vous reproche, c'est d'avoir dénoncé la collusion maçonnique au sein de la magistrature.
Exact. Je complète la question. Est-ce qu'il est permis de faire un rapprochement, et lequel, avec l'affaire célèbre quand même du procureur Éric de Montgolfier à Nice, dont il me semble me rappeler que lui aussi avait dénoncé le fait qu'un justiciable pouvait sans le savoir se trouver jugé par un membre d'une société secrète qui avantagerait son adversaire, membre de la même société secrète que je ne nomme pas.
Non, mais il y a quand même une grosse différence entre Mogolfi et moi. D'abord parce que lui, il est procureur et que moi, je suis avocat. Je suis parce que...
Attends, procureur, c'est l'avocat de la femme sans tête.
Non, je ris quand je dis je suis avocat parce que vous avez un bâtonnier qui le même jour m'écrit une lettre en disant vous n'êtes plus avocat, mais qui le même jour signe une décision du CIR en disant que je suis toujours avocat. Et donc, ils sont tellement paniqués qu'ils ne savent plus même ce qu'ils signent. Mais, pour répondre à votre question, la différence est maintenant, c'est que Montgolfier, lui, on l'a fait taire, il ne parle plus, son fax ne répond plus, son téléphone ne répond plus, il est muet, totalement muet, il ne fait plus rien, mais il n'a pas été radié. Voilà, ça, la différence. Et tout à l'heure, vous parliez de la franc-maçonnerie, mais oui que j'ai une preuve formelle, parce que une bonne âme, certainement à l'intérieur de la franc-maçonnerie, m'a envoyé le bulletin du 28 février 2003 du Grand Orient de France, tenez-vous bien, le Conseil de l'Ordre, qui fêtait ma radiation comme une victoire personnelle du Grand Orient de France. Je l'ai bien entendu cette pièce que j'aimerais bien un jour.
Il faudra toujours donner ampliation, comme on dit.
Alors, cher maître, j'en profite. Oui. Serge de Becquetch et moi-même allons rééditer le petit livre que nous avions fait intitulé Une secte au cœur de la République, qui s'est très bien vendu parce que je pense que c'était pédagogique, c'était un ouvrage de vulgarisation. Mais nous sommes en train de travailler sur une prochaine édition très développée au demeurant. Si vous acceptiez de nous donner cette pièce,
mais attendez, c'est un plaisir immense pour moi, parce que moi aussi...
Et d'apporter vos commentaires,
non, mais parce
nous
que
en serions très heureux.
Je pense bien également m'en servir dans le prochain livre. Hein.
Ah, oui,
bien sûr. Il va falloir rappeler l'affaire Méry. D'ailleurs, ça rappellera un autre Méry mort dans d'autres circonstances. Oui. Je préfère ne pas être de ce...
Voilà,
pareil.
J'espère que vous échapperez à ce sort qui s'acharne sur
Est-ce
les
que
Méry.
Vous me permettez encore une petite chose ou
Oui.
Simplement vous lire... Bon, il me reste, parce que il faut que vous compreniez qu'il reste 4 affaires. Alors, la Cour de cassation a donc dit 4 sont éteintes.
14 sur 18 ont été liquidées.
14 sont éteintes et que 4 restent. Et pourquoi disent-elles ça? Et ça, c'est très grave. Et cet arrêt va être un arrêt qui va faire du bruit parce qu'il va être devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'actuellement, en France, et personne qui nous écoute ne sait cela, c'est que d'après cet arrêt, qui est favorable pour moi, mais qui est négatif selon ce qu'a écrit le procureur général, il est indiqué, de la Cour de cassation, hein, il est indiqué que une seule catégorie professionnelle en France ne bénéficie pas de l'immunité totale pour les actes qu'il produit devant les tribunaux. Autrement dit, s'il est exact qu'un avocat qui produit un écrit devant un tribunal et bénéficie de l'immunité de l'article 41, alinéa 3 de la loi que vous faisiez de la presse du 29 juillet 1881, qui dit que tout acte produit à un tribunal bénéficie de l'immunité pénale et civile, eh bien, l'avocat français, lui, ne bénéficie pas de l'immunité disciplinaire. Autrement dit, cela veut dire que l'avocat qui prête serment, comme je l'ai fait, d'indépendance et de garantir la libre défense de son client sans...
Par tout moyen
et sans influence aucune, et sous la tutelle totale du procureur général, nommé en Conseil des ministres par le président et le premier ministre, de sorte que nous sommes tous avocats sous la tutelle et la surveillance constante du politique, et du politique et du judiciaire, de sorte que il n'y a pas d'avocat indépendant et que tous les avocats de France se parjurent. Et cela, comme je l'ai dénoncé et comme j'en suis maintenant à la base d'une décision judiciaire dont on débattra devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'est contraire au droit européen. Vous savez, l'article 14 qui interdit la discrimination. Or, imaginez que le boulanger, lui, peut envoyer n'importe quoi devant le tribunal si c'est pour défendre. On pourra rien lui dire, mais que l'avocat, lui, peut être radié pour écrire, pour avoir écrit. Et justement, mes 4 affaires, dans les 4 affaires, on me reproche deux conclusions produites devant un tribunal, parce que justement, la Cour avait croyait, elle aussi, vous voyez, qu'il y avait une immunité totale. Elle avait dit, comme il y a l'immunité, on n'en parle plus. Eh bien, la Cour a rappelé, la Cour de cassation a dit non, non, pas sur le plan disciplinaire. Alors, je suis renvoyé devant cette Cour, disons, la Cour d'appel de Versailles, pour quatre affaires qui restent, sur, justement, ce principe. Mais, je ne peux pas me priver de vous lire une des affaires pour que vous compreniez à quel point, comment dirais-je, le Conseil de l'Ordre de Paris est sérieux, car voici un type d'affaire contre l'honneur qui est une lettre que j'avais écrite au bâtonnier de Versailles qui m'empêchait de faire mon travail, c'est-à-dire quand je dépose une plainte pénale, je veux qu'on me mette un tampon pour me dire que j'ai dépendé à telle heure. Ce bâtonnier s'est opposé en disant que c'était comme ça à Versailles et que si je n'étais pas content, j'allais ailleurs. Et voilà ce que j'ai répondu à ce bâtonnier. Je reçois votre courrier du 3 octobre à la signature éloquente. Il faut dire que sa signature allait de bas jusqu'en haut, tellement elle était belle, avec trois petits points d'ailleurs, qui étaient beaux aussi. Et ou inquiétante, alors à la signature éloquente ou inquiétante selon, croyez-moi, confraternellement, vous devriez consulter. Par ailleurs, il me paraît curieux qu'un bâtonnier puisse être aussi ignorant du droit pénal et aussi peu respectueux des droits des justiciables. Je vous suggère à l'avenir de consulter notre éminent confrère Liénard, qui est le spécialiste droit pénal à Versailles. Enfin, je ne vous reconnais pas le droit d'intervenir dans l'exercice de la profession, que cela vous plaise ou non. Eh bien voilà, j'ai été radié pour cette lettre, considérée comme actement à l'honneur, c'est-à-dire à l'équivalent d'un abus de bien social, d'une escroquerie, d'un viol, au sens de la loi de l'amnistie, c'est-à-dire que l'appel, l'honneur au sens de la loi de l'amnistie, c'est tout ce qui est contre l'honneur commise par l'avocat. Et par vous-même, par tout le monde. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être arrêté en train de voler dans la caisse, vous ne pouvez pas être en train de tuer, et c'est ça l'honneur. C'est la condamnation pénale pour des faits pénaux. Voilà, je crois qu'il a été trop long déjà.
Merci, Maître Méry. Merci. Mais vous nous tiendrez au courant des suites de cette passionnante aventure, parce que...
C'est-à-dire que j'aimerais bien que certaines personnes s'intéressent à ce dossier et ne me laissent pas toujours plaider seul, ce qui va encore arriver devant la Cour d'appel de Versailles.
Parce que vous n'êtes pas avocat, alors comment vous faites pour plaider sans être avocat?
Eh bien, je plaide sans robe. Je plaide pour moi.
Merci, à très bientôt. Merci. Madame Ferrandis, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Beckett.
Alors, vous venez comme chaque année, on commence la présentation de la Ferrandis, on lui donnera la parole après. Ne vous inquiétez pas, ma chère Victoria, elle me fait signe, il reste 2 minutes, j'ai pas l'intention d'expédier.
Non, c'était pour madame, pour qu'elle sache qu'elle avait.
Donc, vous présentez l'association, le souvenir du...
Non, des familles des victimes du
Vestibars. Il faut faire très attention quand on cite les associations, parce que les familles des victimes de la rue d'Issy, le 26 mars, et comme chaque année, une manifestation, une cérémonie est prévue cette année.
Oui, en fait, chaque année, oui, il y a une cérémonie organisée à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Tout le monde connaît l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnay à Paris, 23 rue des Bernardins. Elle a lieu donc ce vendredi 26 mars à 18h30. Bien sûr, c'est important que chacun y vienne parce que c'est le seul moment dans l'année où nous pouvons prier pour nos morts qui sont tombés en Algérie française. Bien sûr que nous associons aux morts de la rue d'Isly, et bon, là, c'est bien sûr un petit peu court pour expliquer aux gens.
Non, mais en deuxième partie d'émission, je vous redonne la parole.
Et en fait, nous associons les disparus et tous ceux qui sont tombés après les simulacres d'accord d'Évian le 18 mars 62 à Évian. Donc, pour toutes ces personnes qui sont tombées parce qu'elles aimaient la France, eh bien, nous organisons une cérémonie à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, donc chaque année, donc le 26 mars 2004. Il y a d'autres cérémonies, il y en a une à Bordeaux, les auditeurs l'entendent, à l'église Saint-Éloi aussi à 18h30. Il y en a un peu partout en France. Ça, il faut bien le savoir que depuis 63, il y a des cérémonies partout. C'est important de s'y rendre. Mais là, bien entendu, ne s'arrête pas le combat. Enfin, il y a un jour de prière, un jour de cérémonie, parce que il faut voir comment nos morts ont été enterrés à la sauvette. Tout ça, il faut le laver par la prière. Mais de notre côté, tous les autres jours de l'année, eh bien, notre association se bat.
Alors, on va parler de votre association en deuxième partie d'émission. On vous demandera quelle conception vous avez de ce combat, si ce combat a encore un sens 40 ans après les faits.
Bien volontiers. Merci.
Thank you. Eh bien, nous voilà en route pour la deuxième partie de l'émission avec Marine Le Pen. Bonsoir, Marine.
Bonsoir.
Monsieur Beyvet, bonsoir, monsieur Beyvet. Alors, on a deux têtes de liste. Têtes de liste. Non, pas tête de liste, deuxième de liste. Ben, c'est ça, deux têtes de liste. Donc, la tête de l'hydre. De l'hydre extrémiste, bien sûr. Mais, si vous permettez, je voudrais d'abord redonner la parole à Nicole Ferrandis qui n'a pas eu le temps de terminer son intervention dans la première partie. Donc, Nicole Ferrandis, si vous voulez en quelques mots nous dire, nous rappeler d'abord ce que vous avez prévu avec votre association des victimes du 26 mars, et puis nous rappeler ce qu'est cette association et quel est son travail.
Bon, en quelques mots, je vais rappeler à vos auditeurs ce qu'est déjà le 26 mars 62. Le 26 mars 62, c'est une manifestation à Alger, donc terre française, et une troupe, je dis bien une troupe et non pas l'armée française, parce que je ne veux pas faire l'amalgame. Donc c'est une troupe qui, là, c'est le 4e RT, 4e régiment de tirailleurs, qui tire sans sommation sur une foule sans défense. Bilan de l'opération sans mort, du côté bien sûr des civils. Un peu plus de 200 blessés, 280 blessés. Et depuis bien 40 ans, eh bien...
Et des blessés, dans quel état?
Et dans quel état, absolument. Il y a bien sûr des gens qui ont été handicapés. D'ailleurs, je parle en connaissance de cause. J'ai eu ma sœur, une sœur tuée le 26 mars, de 2 balles dans la nuque. Elle avait 22 ans. Et ma seconde sœur a été grièvement blessée. Elle est handicapée. Et la troisième a été blessée, mais bon, elle s'en est sortie. Donc, bien depuis... 42 ans maintenant, eh bien nous attendons qu'il se passe quelque chose. Alors en fait, il y a eu au départ un dossier qui était instruit et puis très rapidement amnistié en 1968. Donc en fait, juridiquement, on ne peut absolument rien faire. Ce n'est pas la peine d'aller vers la Haute Cour de justice européenne. On ne peut absolument rien faire à ce niveau-là. C'est un crime, je dis bien. C'est bien un crime qui a été commis le 26 mars 62 à Alger. Les militaires qui ont été mis là ont été mis dans des conditions où effectivement elles ne pouvaient que tirer. On parle de provocation, etc., mais ça peu importe. Une armée, enfin une troupe qui tire pendant 12 minutes sur des gens qui n'ont aucune arme, c'est quelque chose d'épouvantable. Il faut l'entendre, cette fusillade. Je n'étais pas loin, je l'ai entendu, et vous savez, c'est très très dur, une fusillade, quand on dit que, quand on pense que sous cette fusillade, il y a des gens qu'on aime, et qu'on ne reverra peut-être plus. Et donc, nous essayons en fait d'enrayer cet oubli. Alors bon, tout à l'heure, je vais parler de la messe, là, bien sûr, c'est important de venir, parce que, pourquoi aussi, parce que, eh bien, non seulement on nous a tiré dessus à Alger, mais en plus, on nous a interdit de faire des obsèques religieuses. On nous a amené les corps au petit matin à une heure que nous n'avions même pas choisi. Interdiction. Pourquoi? Ben, on ne sait pas. D'après les lectures, eh bien, les ordres venaient de là-haut. Donc, les obsèques ont été interdites. Et là, donc, depuis 40 ans, nous faisons des cérémonies un peu partout en France. Donc, moi, je l'organise à Paris, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. J'ai fait mettre une plaque pour nos morts à Saint-Nicolas. C'est pour ça, c'est notre lieu de pèlerinage, je dirais, pour la région parisienne. Et puis aussi, eh bien, je me bats. Bon, j'essaie disons de faire connaître ce qui s'est passé. L'année dernière, bon, j'avais pris des bateaux de l'amiral Bruel, et puis bon, j'avais organisé des conférences sur le bateau mouche l'Hirondelle, et justement, j'avais ouvert ça à tout le public pour essayer, disons, de faire avancer, parce qu'il ne faut pas rester enfermé dans le milieu rapatrié. Ce qui est important, c'est d'aller au-delà. Donc bon, ça a été, il y avait eu des contacts intéressants. Là, dernièrement, bon, bien, nous avons écrit à tous les députés, parce qu'il faut dire qu'il y a un débat, il y a eu un débat parlementaire sur les rapatriés. Et bon, il faut bien en finir, nous attendions avec les rapatriés. Donc le drame de la rue d'Isly a été évoqué, le drame des disparus a été évoqué.
Mais parce que vous occupez beaucoup de la question des disparus aussi, ça c'est un...
Oui, parce que bien évidemment, parce que vous savez, le malheur approche. Je ne veux pas rester insensible à des gens qui attendent depuis 40 ans, qui continuent à mettre un couvert, qui attendent l'être qui est parti, qui n'est jamais revenu. C'est quelque chose d'horrible. Moi, je vais vous dire, j'ai encore la chance, entre guillemets, on a pu faire rapatrier le corps de ma sœur. et on peut au moins se dire elle est là. Mais quelqu'un qui un jour voit son fils, sa mère partir et ne jamais revenir, et on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont en vie? Est-ce qu'ils sont enterrés? Est-ce qu'ils ont une tombe? C'est autant de questions. C'est très difficile de faire un deuil quand on ne sait pas ce qu'est devenu l'autre. Alors bien, oui, je suis effectivement le délégué de l'association Souvenirs des disparus en Algérie. Et là, bon, très prochainement, il va y avoir 3100 dossiers ouverts. C'est au niveau des archives du ministère des Affaires étrangères pour les disparus, sachant que bon, il ne faut pas se leurrer. Bien dans si j'ai disparu, ben il y aura rien au bout. On ouvrira le dossier et on n'en saura pas plus. Ce qu'il faudrait, c'est ce que nous l'association demande. Eh bien, c'est une enquête internationale pour retrouver les charniers, parce que les charniers existent en Algérie, ça c'est certain. Et là, bien entendu, il faudra un grand courage politique pour cela.
Ouais, mais c'est pas cohérent avec les prosternations du pouvoir actuel devant Bouteflika.
Absolument.
On ne peut pas donner la parole à l'Assemblée nationale à un Bouteflika et ensuite penser qu'on va tirer au clair l'affaire des disparus, parce que Bouteflika, il est impliqué forcément.
Absolument. Mais en fait, bon, on ne peut pas rester non plus se taire en disant il n'y a rien à se passer. Alors, disons, ce que nous faisons, eh bien, nous semons. Nous semons, peut-être que ça sera peut-être ma fille, mon fils, mes petits-enfants qui récolteront ce que moi j'aurais semé et mon association aura semé. C'est important. Nous avons l'importance du témoignage, de dire voilà ce qui s'est passé il y a 40 ans. Et puis attention, ça s'est passé il y a 40 ans, mais ça va se passer demain. Parce que l'histoire est un éternel recommencement.
C'est une raison de plus, Madame Ferrandi, pour inviter nos éditeurs, les paroissiens de Saint-Nicolas du Chardonnay, tous ceux qui nous écoutent à Paris et dans la région, à vous entourer mieux qu'ils ne vous ont accueilli en 1963. C'est ce que, en 1962 et dans les mois qui ont suivi, vous venez de le dire, c'est pas simplement de la sympathie. Moi, je me suis rendu à votre réunion l'année dernière sur les bateaux mouches. J'ai été accueilli d'une façon inoubliable. J'ai vendu le Libre Journal comme des petits pains. Et tout le monde était très gentil avec moi. Et vraiment, j'ai senti cette chaleur. C'est peut-être un lieu commun, mais vraiment la chaleur avec laquelle vous recevez vos amis. Alors, je crois qu'il faut dire à tous ceux, même qui n'ont jamais mis les pieds en Algérie, qui nous entendent, que s'ils le peuvent, vendredi 26, n'est-ce pas, à 19h, j'ai bien compris.
Non,
18h30 à Saint-Nicolas, il faut aller vous entourer. Vous venez d'expliquer la raison raisonnante et intelligente et rationnelle, c'est que vous soulevez des questions avec ces disparus, des questions politiques qui concernent tous les Français.
Je voudrais rajouter qu'il y a quand même des anomalies. Il y a 2 ans de ça, on va dire un fou furieux à Nanterre a été assassiné, tout le conseil municipal de Nanterre. Bon, ces gens ne demandaient rien, sont fait assassiner. Quelques mois après, le président de la République leur donnait la Légion d'honneur à titre posthume. Alors, la coïncidence, c'est que ça s'est passé le 26 mars 2002. Moi, je me demande pourquoi les victimes du 26 mars 1962 n'auraient pas le droit à la Légion d'honneur à titre posthume, puisque ça s'est passé une fois. Et là, en fait, les gens qui sont morts, ils sont morts, à cause de déséquilibré. Nous, le 26 mars 1962, les gens ont été assassinés parce qu'ils aimaient la France. Alors donc, il faut se poser la question, soit on leur remet la Légion d'honneur parce qu'ils sont morts pour la France, ou alors on leur remet rien du tout. Ils sont morts par la France. Et c'est vraiment un assassinat. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Donc en fait, c'est une des ce que l'association essaie d'obtenir. Je ne me fais guère d'illusions. Enfin, on peut toujours demander. C'est pas pour moi. C'est pour rendre justice à ceux qui sont tombés le 26 mars. Et c'est quand, il y a un peu des plaques partout. On commémore, il y a des plaques. Eh bien, ça serait bien normal qu'il y ait un endroit de recueillement à Paris. Une plaque, c'est la demande de l'association, c'est ce que nous espérons et nous travaillons pour cela, bien sûr. Et
la plaque du pont Saint-Michel ne vous satisfait pas?
Non, du tout. C'est la 5e, paraît-il.
Ah bon, on la casse quand même de temps en temps.
Oui, de temps en temps, il paraît que c'est la 5e. Alors, juste dire, c'est effectivement l'association des familles des victimes et de leurs alliés, en fait, on pourrait dire, et de leurs amis. Il y a des métropolitains qui nous ont rejoints. Et c'est vrai que j'ai besoin, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai besoin d'être entouré pour continuer le combat, parce que, et bien autour de moi, les rapatriés vieillissent, ils sont fatigués. Moi-même, je suis pas très vieille, mais je suis fatiguée aussi. Et j'ai besoin vraiment qu'on me rejoigne pour mener ce combat, pour obtenir justement une réparation. On ne l'obtiendra peut-être pas, mais au moins il faut la demander, mais il faut la demander avec force.
Un auditeur nous envoie un message qui explique peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous demandez. Il nous dit que aujourd'hui il y a un article d'Alexandre Adler dans le Figaro sur les trois paradoxes d'Israël. Dans le troisième paragraphe, Alexandre Adler affirme, nous dit cet auditeur, j'ai pas lu l'article, qu'Israël, pour évacuer les territoires occupés, sera obligé de faire comme l'armée française en Algérie, tirer sur la population pied-noir. Autrement dit, tirer sur les... En Algérie, c'est tirer sur les colons, les occupants des territoires occupés. Donc il y a une espèce... On comprend très bien que... On comprend très bien le calcul des gens qui ont fait ça. Au nom de la raison d'État, il fallait terroriser la population européenne en Algérie de telle façon qu'elle n'oublie pas la leçon. C'est ce que les terroristes ont fait en Espagne, avec cette histoire de ce drame du train qui a explosé. Le terrorisme, ça a pour but de terroriser, c'est-à-dire on tue 100, comme à la rue d'Isly, ou 200 innocents, comme à la gare d'Atocha, pour que les autres disent « Oh là 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 là, faut peut-être faire attention à se tenir à carreau ». Et Alexandre Adler dit « Si on veut faire sortir, si Sharon applique ce qu'il avait dit, c'est-à-dire de faire dégager les colons des territoires occupés, les colons vont résister ». Et lui a fait le calcul, probablement, qu'il faudrait les tuer exactement comme on a tué les Européens de la rue d'Isley. Il y a... ça me paraît très, très... le calcul me paraît très, très simple. Et dans la pensée gaulliste, ou gaulienne, ou gaullique, il est évident que ça fait partie du raisonnement. C'est tout à fait clair que il faut user d'une coercition terrifiante pour arriver à ses fins. Et ça continue maintenant, quand on voit ce qui s'est passé récemment avec cette histoire complètement idiote d'AZF, qui a été exploitée, montée en épingle, ou avec la lettre qui a été publiée au nom d'Allah le Très Grand, le Miséricordieux. Il suffisait de la lire une fois pour voir que c'était une farce. Ils se sont empressés, le pouvoir s'est empressé de monter cette affaire en graine, en faisant d'ailleurs un calcul qui s'est avéré faux, c'est que ça allait faire peur aux Français et les rassembler autour du pouvoir en place. Ils auraient dû s'inspirer de l'exemple espagnol. Maintenant, la peur des gens ne les rapproche pas du pouvoir en place, il les rapproche du pouvoir opposant parce qu'ils se disent, ceux-là au moins, ils fuiront, ils se débileront, ils nous permettront peut-être de pas avoir d'ennui, ce qui s'est passé en Espagne avec les socialistes. Et donc là, le calcul était faux. Mais en général, il y a une disposition de l'esprit qui est typiquement gaullique et qui fait que on utilise tous les moyens de la terreur coercitive pour obtenir ce qu'on veut des Français. Et c'est vrai que la tuerie de la rue d'Isly a eu un effet absolument épouvantable sur les populations européennes d'Algérie.
Oui, on a compris qu'il fallait effectivement rien espérer. Voilà. C'était effectivement la valise sous le cercueil, c'était le cas de le dire. Et donc,
je pense que les Européens d'Algérie ne pensaient pas. Ils savaient bien que le FLN leur avait donné le choix entre la valise ou le cercueil, ils pensaient quand même pas que ce serait l'armée française qui ouvrirait les cercueils. Ça, c'était un petit peu
absolument, mais en
inattendu.
Fait, c'est pour ça que je ne dis pas non l'armée française, mais je dirais le pouvoir gaulliste. Le pouvoir gaulliste, oui, absolument.
Quand on voit ce qu'a fait Katz, ce qu'ont fait enfin tous ces gens, on ne va pas revenir là-dessus. Je sais qu'il y a des auditeurs qui ont téléphoné en disant foutez-nous la paix avec l'Algérie. Moi, je trouve l'Algérie, ça s'est passé en 62. On nous emmerde assez avec des choses qui se sont passées 20 ans plus tôt. On a quand même un petit peu le droit de parler de l'Algérie de temps en temps. Il n'y a pas non plus que les heures les plus sombres.
Bien peut-être que si l'Algérie était restée française, peut-être qu'aujourd'hui la France ne serait pas dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui aussi.
Ça me paraît assez évident. Merci Nicole Fernandez.
Merci à vous. Je rappelle qu'il y a aussi une cérémonie à la mémoire des morts de la rue d'Isly. Demain, jeudi 25 mars, à 18h, place de l'Étoile.
Bon, mais ça, c'est pas. Là, moi, je reçois Nicole Ferrandis. Cette manifestation, c'est autre chose. C'est une manifestation, justement, qui est organisée par des gens qui frayent avec les descendants des assassins. Alors, moi, j'aime pas trop ce genre de truc, vous voyez. C'est les mecs qui reçoivent Muselier, qui reçoivent Douste Blasi, et qui veulent faire du copinage entre la population européenne d'Algérie et les gens qui ont fait tuer la population européenne d'Algérie. Je trouve quand même que c'est un peu gonflé. Donc si vous voulez saluer les morts d'Algérie avec sincérité et franchise, vous pouvez aller à la réunion qui est organisée par Nicole Ferrandis à Saint-Nicolas. Si vous voulez aller à d'autres réunions, bien sûr, vous avez le droit de le faire, mais il faut savoir avec qui vous allez frayer là-bas. Vous allez frayer avec des gens qui sont les héritiers politiques, les héritiers spirituels de l'homme qui a organisé l'abandon de l'Algérie et l'assassinat des Européens d'Algérie.
Le rendez-vous est donc vendredi 26 à 18h30 à Saint-Nicolas, métro Maubert Mutualité et nulle part ailleurs.
Merci beaucoup.
Voilà, merci Nicole Ferrandis,
merci
à bientôt.
Fidélité, merci aux auditeurs, merci.
Marine Le Pen, bonsoir. Monsieur Bébé, bonsoir.
Serge, bonsoir.
Qu'est-ce qu'il est, il est familier, je trouve. Hein, on est...
Mais il faut toujours être familier.
Souriant. Et
souriant.
Et c'est bien, c'est bien. C'est l'assureur. Il ne manque pas d'assurance.
Quelle chance j'ai d'être assureur dans la maison.
Ah oui, je pense bien. Tu parles avec des clients comme moi, tu es servi.
Donc c'est vous qui aviez garanti 18% à Marine Le Pen au premier tour.
Et c'est-à-dire que nous ne l'avions pas garanti, mais nous l'espérions et on n'est pas loin de...
Ah, vous lui devez combien, c'est ça Combien vous lui devez de dédits maintenant?
En dehors de la boule de cristal et du marc de café, il est difficile de savoir avant ce que nous allons pouvoir faire.
Alors, ce que je voudrais demander d'abord à Marine Le Pen, c'est un triple bilan. Le bilan, mais pas un bilan final, je dirais. Un bilan raisonné de la façon dont s'est passée la campagne pour vous. Pour vous personnellement, ensuite pour le Front National et les résultats pour tout l'électorat. Et puis on parlera ensuite des conséquences. Mais donc la première question s'adresse à vous en tant que tête de liste Front National en Ile-de-France. Comment avez-vous perçu cette campagne ? Est-ce parce qu'on a eu l'impression que vous accrochiez, qu'il y avait des choses qui marchaient, etc. Et le résultat est moins important, moins brillant que ce qu'on pouvait espérer, enfin, y compris les gens qui ont travaillé directement avec vous. Alors, quelle est votre réflexion sur cette campagne ?
Oui, d'abord, je crois qu'on a fait une campagne dont nous n'avons pas à rougir. Je crois que nous avons fait une très belle campagne et je pense que nous avons d'ailleurs fait... nous n'aurions pas pu faire autre chose ou plus... que cela. Mais vous savez que le résultat d'une élection n'est pas toujours lié à la campagne que l'on fait. Sinon, il y a beaucoup d'hommes politiques qui seraient élus puisqu'ils payent des fortunes des sociétés de communication qui sont censées connaître tout ça sur le bout des doigts. C'est vrai que le résultat est un peu décevant par rapport à ce qu'on aurait pu espérer, même si le Front National a fait un excellent score au niveau national. Que les choses soient claires, c'est un très bon score dans les conditions dans lesquelles nous travaillons. C'est le meilleur rapport qualité-prix, en quelque sorte, puisque nous n'avons pas les moyens de nos adversaires, puisque nous n'avons pas de municipalité, pas de réseau, pas de clients, nous ne faisons pas de clientélisme, etc., etc., etc. Il y a un certain nombre de phénomènes qui expliquent le résultat en Ile-de-France. D'abord, on le sait, l'Ile-de-France est une très mauvaise région électorale pour le Front National. Pourquoi ? Eh bien, parce que la population française fuit l'Ile-de-France. Voilà, ça c'est la réalité, elle s'en va, parce que dès qu'on a un ou deux enfants, et ça n'est pas notre analyse, c'est l'analyse de tous les sociologues, on ne peut plus vivre en Ile-de-France, on est obligé de partir soit en grande couronne, soit même dans des régions limitrophes, parce que l'insécurité, parce que le chômage, parce que les délocalisations, parce que le coût des logements, etc. Ce qui explique cette chute pas inexorable, justement, des scores du Front National, qui sont passés de 16,80 au dernier régional, à 14,5 au présidentiel, donc 2,5 en dessous de la moyenne nationale, et 10% aux législatives. Je crois que nous avons enrayé cette chute, mais il est évident que ça n'est pas en 6 mois que nous pouvons enrayer un phénomène comme celui-là. Et puis, il y a un deuxième élément qui est entré en compte dans cette campagne, c'est la vraie fausse candidature d'opposition de Santini, qui, à mon avis, s'est révélée être une véritable escroquerie, dans lequel une véritable arnaque, dans lequel est tombé un certain nombre d'électeurs de l'UMP qui, de bonne foi, ont cru sanctionner le gouvernement en allant porter leur voix sur quelqu'un qui disait pique-pendre de ce gouvernement. Lui ou d'ailleurs son patron Bérou. Des incapables, des nuls, des incompétents, j'en passe et des meilleurs, et tout ça à la tribune de l'Assemblée nationale. Or, ce que nous avions dit, mais notre voix tombe parfois ou s'égare parfois dans le désert, nous avions dit attention, bah les masques, derrière le masque de Santini, il y a évidemment Copé et vous allez être les victimes de cette escroquerie.
Mais écoutez,
ça n'a pas loupé.
On en est au point de se demander si, finalement, quand on regarde la façon dont les choses se sont passées, je me pose la question de savoir si Bérou n'a pas été le cocu de cette farce. Parce que on lui a fait croire visiblement quelque chose, il a marché, lui il a pris une paire de claques, il est guéri pour un moment, je pense, et on a l'impression que dès le départ, Chirac a fait appliquer une vieille technique de lessivier, qui est de dire, vous avez persil et homo, ou je ne sais quoi, hein, vous avez deux lessives qui sont radicalement différentes, faites votre choix et tout, puis c'est la même, ça sort de la même machine et ça va simplement dans des boîtes différentes.
Alors, je sais quand même que je me suis quand même posé la question, parce que il y avait quelque chose qui me turlupinait, c'est que M. Santini, s'il devient conseiller régional, ce qui sera le cas, quelle que soit la situation politique, est en cumul des mandats, puisqu'il est maire, il est député, et donc il ne peut pas être conseiller régional. Or, la nouvelle loi lui interdit de démissionner du conseil régional, ce qui voudrait dire qu'il perdrait sa mairie. Et là, je me dis, mais Santini va pas perdre sa mairie d'ici les Moulineaux pour devenir conseiller régional. Je veux dire, on ne fera pas croire ça à moi. Eh bien, la réalité, c'est que ce n'est pas ces mandats-là qu'il va perdre. C'est son mandat de député, puisqu'il a décroché la promesse d'un ministère. Voilà. Donc, il s'est fait acheter à bon compte. Je vous dis qu'on lui a promis un ministère.
Ah, on lui a promis.
Alors, les promesses n'engagent que ceux qui les ont faites, comme disait Pasqua.
Mais il s'est
vendu pour un portefeuille. C'est aussi dérisoire que ça, c'est aussi classique, hélas, dans cette classe politique qui est corrompue jusqu'à la moelle. Alors, ça pose quand même un problème, si vous voulez, c'est que il est vrai que nous nous sommes retrouvés avec un vote d'adhésion, les 12,26% dans une région qui est énorme. Je veux dire, 12,26% en Ile-de-France, c'est 450 000 électeurs. Hein. C'est quand même pas négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la partie du vote de protestation dont nous pensions être bénéficiaires, eh bien, a fait l'objet d'un hold-up électoral.
Alors, vous parlez de vote d'adhésion. En fait, c'est un vrai débat qui dure depuis des années et des années. Est-ce que le vote Front National est un vote de protestation, un vote d'adhésion, un vote de dégoût, un vote de découragement, un vote de on ne sait pas quoi? Mais là, je crois que c'est assez clair que ça tient plus debout maintenant, cette argumentation. Parce qu'on peut avoir un vote de protestation une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais alors, au bout de 10 fois, toujours protester de la même manière avec les mêmes bulletins, ça me paraît
relever de... Je voudrais dire qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant au niveau national dans l'analyse des résultats. C'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un véritable ancrage du Front National partout, y compris dans des régions qui étaient des terres de mission, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Les médias glossent beaucoup sur un tel n'a pas passé la barre des 10, c'est un échec. Non, c'est pas un échec. Parce que la petite Patricia Gibault, notre candidate dans le Limousin, eh bien, elle a fait passer le Front National de 8 à 9,5. Parce que Samuel Maréchal, dans les Pays de la Loire, qui a eu la concurrence du MNR, qui a quand même pris 2,5 points, hein, eh bien, a augmenté de 26% ses voix. Et il est passé, lui aussi, de 8,5 à 9,75. Ce qui veut dire que la prochaine fois, ces régions-là auront des représentants du Front National.
Je vais poser une question qui peut paraître délicate, ou indélicate, ou comme on voudra. Mais dans le cas de Samuel Maréchal, vous dites le MNR a pris 2,5% des voix.
Quel sens... Il manque 4000 voix à Maréchal.
Mais quel sens donnez-vous à ce vote? Parce que le vote d'un nationaliste, il a le choix entre le Front National et le MNR. S'il vote le MNR, c'est bien aussi, un peu, toute proportion gardée, comme le militant UMP qui vote UDF, pour montrer à l'UMP qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec le système et qu'il voudrait bien que ça change.
Je crois pas parce que, à la limite, si c'était le cas, en Ile-de-France, M. B n'aurait pas fait 1,2%. Non, il y a eu des choses très étranges, d'ailleurs, dans l'analyse des votes, qui méritera d'être regardée de près, notamment dans la région de Samuel Maréchal concernant le MNR, parce qu'il y a des résultats qui sont illogiques. Or, il faut bien admettre que ces résultats illogiques se retrouvent comme par hasard dans des secteurs qui sont des secteurs de ministres de l'UMP. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais j'avoue que cette vague d'appel au vote de la part de dirigeants du MNR, pas tous d'ailleurs, et je tiens à le dire à vos auditeurs, pas tous, vers l'UMP, me paraît quand même assez irresponsable et assez étrange, parce que pour un mouvement qui a donné comme priorité la lutte contre l'islamisation, ce qui évidemment est un problème que nous connaissons et que nous combattons, notamment au Conseil régional, régulièrement en luttant contre le communautarisme. Mais pour un mouvement qui lutte contre l'islamisation, proposer de voter pour un gouvernement dont le ministre de l'Intérieur a officialisé l'islam radical au travers de la création du Conseil français du culte musulman, admettez qu'il y a quand même un problème. Je veux dire, c'est quand même pas logique. Hein. Je pense que j'espère en tout cas que une grande partie de cet électorat qui a la France au cœur, je le sais, se tournera vers les seuls qui ont toujours défendu la France, ses frontières, son armée, son système de santé, ses travailleurs, ses chefs d'entreprise, et puis la France et les Français d'abord. Mais je trouve qu'il y a des choses étranges dans le comportement d'un certain nombre de dirigeants. Mais je tiens à dire que ce Timmermans a appelé, lui, quant à lui, les électeurs MNR à se reporter sur le Front National.
Tim, c'est un vieux militant, ça aurait été quand même étonnant
oui.
que...
Oui, mais, c'est oui, mais plus... d'accord, mais c'est un vieux militant, oui, oui. mais qui se débarrasse, qui considère qu'au premier tour, chacun défend ses positions, mais qu'au deuxième tour, eh bien, on appelle à voter pour ceux qui ont le combat le plus proche du vôtre.
J'aurais été très surpris qu'il fasse autrement.
Et pour les auditeurs qui ne seraient pas au fait de toutes les arcanes du mouvement national, donc Franck Timmermans, c'était encore récemment le numéro 3 du MNR. Je vais continuer 30 secondes dans le simplisme, parce qu'il y a des cadres, de multiples cadres de l'UMP qui se répandent sur les médias en disant en substance pauvres gens qui en avaient été réduits dans votre désarroi et votre bêtise à voter pour le Front National, vous comprenez bien maintenant que le Front National ne peut prendre le contrôle d'aucune région, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour barrer la route à la gauche. Ce qui sous-entend, ils le disent ouvertement, ce qui sous-entend, pour les gens qui consacrent une minute ou deux le dimanche à leur devoir électoral, qu'il n'y a plus moyen de voter pour le Front ou que ça ne sert à rien. Alors il faut dire, ouais. parce que pour nous ça semble acquis, il bien faut sûr. Dire et marteler et demander à nos auditeurs de bien l'expliquer autour d'eux, qu'aucune voix n'est perdue, puisque plus le Front National récupérera de ses électeurs, de ceux du MNR, de ceux de chasse, pêche, nature et tradition, et de ceux de lutte ouvrière, parce qu'il est acquis que plus de 60% des électeurs de lutte ouvrière circulent, font du nomadisme entre lutte ouvrière et le Front National, plus ça fera de représentants, un, qui les représenteront au Conseil régional, et deux, plus ça fera d'élus qui donneront leur signature au prochain candidat au présidentiel, et ce qui nous évitera de courir après avec un filet à papillon. Oui.
Mais d'ailleurs, les électeurs, très entre nous, les électeurs, à un moment donné, il faut leur dire, mais écoutez, arrêtons-nous et voyons ce qui s'est passé. Ça fait 25 ans qu'on vous fait le coup du vote utile.
Oui, c'est extraordinaire.
Là. 25 ans qu'on vous fait le coup du vote utile. Mais le vote utile, à qui ? À quoi le vote utile ? Utile à conserver les mandats des copains, des coquins, de ceux qui se distribuent l'argent du contribuable sans beaucoup de parcimonie. C'est l'utilité d'un vote, c'est de voter pour ses propres idées. C'est d'avoir des représentants qui vous défendent. L'élection, cette élection-là est une élection à la proportionnelle au deuxième tour. Par conséquent, ce que vous venez de dire est tout à fait juste. Plus il y aura de votes pour le Front National au deuxième tour, plus il y aura de représentants. Et c'est utile. Bien entendu. La dernière fois, il y a un journaliste qui me dit « Ah ben oui, mais vous ne pouvez pas gagner la région, donc quel est l'intérêt ?» Ah ben je dis « Oui, et puis quel est l'intérêt de la démocratie ?»
Oui,
aucun intérêt.
Non, mais il y a un autre aspect quand même. C'est pas une question de dignité. C'est-à-dire que ces gens-là nous expliquent « Avant le premier tour, vous votez pour le Front National, vous êtes des salauds. »
Oui, voilà. Tout à fait.
Le premier tour est fini, vous n'allez pas voter pour le Front National, vous seriez des imbéciles. Alors, il faudrait savoir, on est des salauds et des imbéciles. Ça fait beaucoup pour un seul homme, quand même, jusqu'au dimanche soir, un salaud.
Et surtout pour 6 millions.
Ben oui,
J'ai dit le Front National sent bon, sent mauvais, mais l'électeur du Front National sent bon.
Oui, c'est ça.
C'est assez scandaleux. Enfin, quoi qu'il en soit, et il faut quand même lever aussi une autre ambiguïté, parce qu'on martèle, il martèle d'ailleurs l'UMP que voter Front National, c'est voter pour la gauche. Il faut quand même rappeler un certain nombre de choses. Il faut quand même rappeler que c'est Chirac qui a fait élire Mitterrand. Il faut quand même rappeler que c'est Chirac qui a dissous en 97 et qui a fait élire la gauche. Il faut quand même rappeler que dans de multiples régions, dont l'Île-de-France et la PACA, ces régions ont toujours été de droite et que c'est l'UMP, en refusant les voix du Front National, qui a installé en Île-de-France M. Huchon au poste de président. Il faut tout de même rappeler que ces gens-là n'ont aucune moralité politique et que par conséquent, je veux dire, même s'ils nous tendaient la main, très honnêtement, non, merci parce que la main n'est pas très propre, c'est le moins qu'on puisse dire, et que ce mouvement, l'UMP, est encore dirigé par M. Juppé. Et
d'ailleurs, vous avez fait l'expérience en 98 de prendre la main de l'UMP dans les régions, Et vous avez reçu la leur sur la figure, je me souviens bien.
Comme à chaque fois. Et puis, il y a un autre mensonge qui est diffusé pendant toute cette semaine. C'est de dire Jean-François Copé et Jean-Paul Huchon sont au coude à coude. C'est faux. C'est faux. Mathématiquement, Jean-François Copé ne peut pas gagner la région. Pour la simple et bonne raison, et ça n'est pas à cause du Front National. C'est à cause de ses ennemis de l'UDF. Enfin, écoutez, il est évident, et on le sait, c'est mathématique, c'est toutes les études l'ont démontré, qu'il y a un très mauvais report de l'UDF sur l'UMP. Ça, c'est la vérité, parce que cet électorat UDF, d'ailleurs, est constitué de gens de tous horizons. Il y a des socialistes.
On a entendu beaucoup d'interviews à la radio disent, les gars, il n'y a absolument pas question qu'on vote pour l'UMP, on n'a rien à voir avec ces gens.
Voilà. Donc, si vous voulez, quand Copé dit partout, c'est le Front National qui va faire battre l'UMP, donc il faut voter pour l'UMP, non. C'est l'UDF qui fera battre l'UMP, et très entre nous, ça fait pas beaucoup de différence. Ça aussi, il faut le dire aux auditeurs, parce qu'ils font strictement la même politique, et que pendant 6 ans, et ça aussi, il faut le savoir, pendant 6 ans, ils ont voté, l'UMP a voté 98% des dossiers présentés par les socialistes et les communistes. 98%.
Bah, comme ils se partagent, forcément.
Hein, bah oui, mais
ils ont de bonnes raisons.
Du coup, le Front National a été la seule véritable opposition au sein du Conseil régional d'Île-de-France.
L'avantage, de toute façon, du maintien des listes Front National pour le deuxième tour, c'est que ça mettra ce genre de choses au clair, parce qu'ils ne pourront pas dire que le Front National a fait élire les socialistes, puisque les comptes seront là. On verra bien comment ça se passe. On verra bien que si les militants du Front National ont continué à voter Front National, c'est une affaire entre eux, je dirais, entre la gauche et l'UMP. Il faudra bien que...
Non, mais le problème, c'est qu'il faut surtout que les électeurs du Front National se rendent compte qu'il faut qu'ils cessent de se faire balader, quoi. Parce que c'est vrai que ce vote utile, ça marche à la marge, mais ça marche un peu quand même, toujours. Il y a toujours des gens qui disent, ah, quand même, la droite. Mais mettez-vous dans la tête que la droite n'est plus la droite. La droite, c'est l'image que vous en avez encore des gens qui défendent la nation. Ça n'est plus la droite. Ces gens-là ne défendent plus la nation. C'est terminé.
Je citais tout à l'heure la déclaration de Copé. Moi qui m'obsède, parce que ça me paraît tellement monstrueux, ça me paraît tellement un contraire à tout bon sens, que quand il a dit à une radio, une des premières décisions que je prendrai si je suis élu président de la région Île-de-France, ce sera d'organiser une campagne de sensibilisation des élèves des lycées et collèges à l'homophobie. Un socialiste dirait exactement la même chose. Et là, je trouve encore autre chose. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Monsieur Copé ? Il vient de dire, là, la semaine dernière, il a déclaré que le remède miracle contre l'antisémitisme qui ravage nos contrées, tout le monde l'a compris, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir, c'est incroyable, le nombre de synagogues qui brûlent, de cadavres dans les rues et tout, on voit bien que c'est bien bon. Alors lui, il a dit, il y a un remède très simple, il faut que tous les enfants des écoles de toute la France fassent un pèlerinage à Auschwitz.
Non mais Monsieur Copé,
il est urgence, vous comprenez. Moi, je sais pas.
Non mais je veux dire, Jean-François Copé est quelqu'un qui est un obsédé du communautarisme. C'est un obsédé. Il le dit d'ailleurs dans son livre, tout ce que je n'ai pas fait, Alina. Il dit, je passais ma vie dans les fêtes algériennes, je ne ratais jamais une fête malienne en boubou. J'allais et il a fait ça pendant toute la campagne. Il est allé voir les Berbères, il est allé voir les Portugais. Enfin, vous me direz, Monsieur Huchon n'a pas fait mieux. Il a proposé.
Monsieur Huchon, l'Antillais.
Aux ressortissants d'outre-mer de payer le billet pour les laisser partir en vacances. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup d'affection pour les ressortissants d'outre-mer, mais pourquoi pas les Lorientais aussi, parce que le petit jeune qui habite à Lorient et qui veut aller voir ses parents, c'est la ligne la plus chère de France. Enfin, je veux dire, ils sont capables de dire et de promettre n'importe quoi pour pouvoir être élus. N'importe quoi. Or, ça va à l'encontre de tout ce que nous défendons. Nous défendons l'unité nationale, nous défendons la communauté de destin que nous avons, nous défendons l'idée même de l'existence du peuple français, et eux le morcellent. Ils le morcellent par la région, ils le morcellent par la décentralisation, ils le morcellent dans les esprits, et je crois que ça, c'est catastrophique, et en cela, ils ressemblent beaucoup, il faut le dire, à la gauche. Alors, moi, quand les gens me disent, ah ben oui, mais il ne faut pas taper sur la droite, et je leur dis, mais écoutez, que la gauche fasse une politique de gauche, il faut la combattre, parce que c'est une politique néfaste, mais que la droite fasse une politique de gauche.
Ça, c'est de l'escroquerie, ça.
C'est de l'escroquerie et de la trahison.
Je pense quand même qu'il y a un problème entre eux, entre l'UMP et l'UDF, car si je vois le bulletin de vote pour dimanche des Yvelines, je m'aperçois que M. Copé a pris une personne de l'UMP, certes, mais retiré M. Bédier comme tête de liste. Or, Bédier est quand même quelqu'un qui avait des difficultés avec la justice, et ils n'ont probablement pas voulu que M. Bédier soit tête de liste chez eux, ce qui tend à prouver qu'il y a quelques problèmes entre eux, et donc oui, l'UDF ne va pas obligatoirement rapporter ses voix sur l'UMP.
Pour être parfaitement honnête, je dirais que ça, c'est exactement le genre de truc où ils sont coincés. C'est-à-dire, où ils prennent Bédier et on leur dit, dites donc, vous êtes un petit peu gonflé de prendre un type qui est en examen, ou ils prennent pas Bédier et on leur dit, ah ben vous êtes des, hein, vous le prenez pas parce qu'il est mis en examen. Là, ils font ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent, je sais pas. C'est pas le genre de reproche que j'adresserais. Ça me fait penser à, je citais tout à l'heure l'histoire des menaces d'attentat. Quand Raffarin dit, on a préféré prendre des précautions. Bon, on peut rire, mais d'une certaine manière, s'il y a un attentat en France et qu'ils n'ont pas prévenu la population, on dira « vous le saviez, vous n'avez prévenu personne ». S'il n'y a pas d'attentat, on dit « vous avez attiré l'attention sur un danger d'attentat qui n'existait pas ». Et le boulot de responsables politiques à des niveaux comme ça, ça consiste à assumer ce genre de paradoxe ou ce genre d'incompatibilité.
Oui, enfin, très entre nous, le boulot du gouvernement, là, aurait été plutôt de mettre en place des frontières, parce que la libre circulation des biens et des personnes, c'est aussi la libre circulation des risques et des bombes et des terroristes. Moi, ce que je voudrais dire aux auditeurs, parce qu'il arrive un moment où c'est vrai que nous autres qui nous battons tous les jours, on est un peu déçus dans une élection comme ça. C'est vrai que le score du Front National est bon au niveau national. Il y a des endroits où on fait un carton comme en Picardie, où on maintient nos scores de manière tout à fait honorable. Bon, ça c'est vrai. Mais comme nous ne nous battons pas pour nous, comme ça n'est pas pour nous à titre personnel, comme nous ne sommes pas comme M. Carucci, à qui quand on lui dit « tu seras plus président de l'UMP », fond en larmes. Non mais je veux dire, c'est ce qui est rapporté par le Canard Enchaîné, mais c'est à pleurer, nous. Parce que la classe politique soit constituée de gens à qui si on lui dit « tu n'es plus président de groupe », il se met à pleurer. C'est fou, je veux dire. Moi j'ai envie de dire aux électeurs, mais vous avez aussi la classe politique pour qui vous votez. Il y a un moment donné où si vous voulez des élus courageux, si vous voulez des élus honnêtes, mais il faut vous-même que vous ayez le courage de dire « ça suffit ». Il faut que vous ayez le courage de voter pour ceux qui se battent, qui vous défendent, et ne pas tomber dans cette espèce d'alternance qui est un peu décevante pour ceux qui se battent. On se dit toujours, mais est-ce qu'ils vont sortir de cette alternance dont on leur explique depuis des années qu'elle ne sert à rien?
Est-ce que vous croyez vraiment que les Français veulent ça? Moi, j'ai toujours un souvenir quand le Front National a eu des députés à l'Assemblée nationale, et que ces députés se sont mobilisés pour faire respecter le règlement de l'Assemblée en interdisant, mais matériellement, l'usage de plusieurs clés,
oui, tout à fait,
par les députés qui avaient l'habitude, alors qu'un député n'a le droit d'avoir qu'une clé, ne détient donc le droit de vote que pour lui et éventuellement un autre député. Là, il y avait des gars qui mettaient des trousseaux sur eux, qui couraient l'ont dérangé, clac, 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 pour voter pour leur groupe. Et à l'époque, Bernard Anthony, Bruno Gollnisch, Roger Olyndre, enfin tous les députés étaient montés au filet en disant c'est illégal, c'est un scandale, c'est antidémocratique. Mais enfin, antidémocratique, bon, c'est illégal, en tout cas. Et ils avaient donc, ils s'étaient opposés matériellement en disant non, vous ne pouvez pas faire ça. Eh bien, rappelez-vous que ça avait fait un scandale. On avait parlé d'une tentative de coup d'État à l'Assemblée nationale. On avait même cité le général Terrero en disant ils font comme le général Terrero. Enfin, et les Français ont avalé ça tout rond en disant ah, le Front National, voilà encore le Front National qui fait un scandale, la violence. Alors, quand on parle de la violence, par exemple, moi je veux bien, on nous parle de la violence tout le temps, mais enfin, on est en République, est un régime qui est né dans les soubresauts, dans les secousses de la violence la plus sanglante qui soit, et maintenant on voudrait que ce soit un régime qui soit entretenu, qui soit un régime angélique. C'est pas angélique du tout. Et je trouve que les Français n'ont pas le bon sens, beaucoup de Français n'ont pas le bon sens de dire tout simplement si on veut faire respecter la loi, il faut utiliser des armes coercitives.
Mais le problème, c'est qu'il y a une espèce... On leur a fait croire aussi, enfin je veux dire, la classe politique, à son bénéfice exclusif évidemment, a fait croire aux Français qu'il y avait des fatalités. Alors ça, c'est la fatalité. Ah bah oui, mais l'insécurité, c'est la fatalité. Pff.
la mondialisation, c'est la fatalité. Mais non, il n'y a pas de fatalité en politique. Il n'y a pas de fatalité. On peut toujours faire autrement. Encore faut-il le vouloir. Je prenais l'exemple dernièrement de Giuliani. Giuliani à New York était une ville qui était un coupe-gorge. Il a fait baisser de 80% l'insécurité. Pas 2,32% comme Sarkozy en 2 ans et demi. Hein. Lui, en 2 ans, il avait fait baisser de 80% parce qu'il avait la volonté. C'est tout, parce qu'il avait l'autorité. Donc l'insécurité n'est pas une fatalité. La mondialisation, il y a des choses à faire pour empêcher que nos emplois et nos entreprises soient détruits. Ça existe, les choix politiques. Il faut leur dire aux auditeurs et aux électeurs, il n'y a pas de fatalité. Voilà, il suffit d'avoir une volonté. Mais c'est vous qui détenez la clé, parce que c'est vous qui détenez le bulletin de vote. Alors il s'agit de s'en servir aussi. Hein, c'est aussi simple que ça, et c'est aussi compliqué que ça.
Je voudrais revenir sur la campagne en général, la campagne du Front, parce que depuis quelques mois, il y a le Front visiblement essaye de donner une image qui va, espère ceux qui sont les inspirateurs de cette image, dédiaboliser entre guillemets le Front, qui va lui donner une image plus acceptable par l'opinion publique. Est-ce que vous croyez que ça a apporté ses fruits? Est-ce que vous avez
d'arrêter d'être traité de raciste, d'antisémite, de pourri, de salaud, de nazi?
Est-ce que ça a arrêté vraiment?
Oui, je pense, oui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ont dit les membres du bureau politique candidat que nous avons rencontré lundi lors du bureau politique où nous avons évoqué l'élection. Ils ont dit oui, c'est vrai que nous avons fait campagne, il faut bien admettre, dans des conditions plus faciles, avec un accueil plus agréable de la part de la population. C'est ce que disait Bruno Gollnisch la dernière fois, qui dit la haine s'est muée en indifférence, l'indifférence en signe de sympathie, et signe de sympathie en franc soutien. Oui, je pense que ça a facilité, et je pense que ça a permis au Front National de s'ancrer de manière définitive avec un socle qui est quand même assez haut, parce que si on considère qu'aujourd'hui 20% c'est le seuil, je veux dire, pour accéder aux affaires, et ben 15% ça s'en rapproche quand même drôlement. Bon, donc et c'est aussi ce qui a permis, je pense, dans des régions qui étaient difficiles, de voir augmenter les scores, dans des régions qui étaient moyennes, de voir des scores comme en Lorraine 19%, comme en Franche-Comté 18,5%. Donc je crois que tout ça porte ses fruits. Je voyais que Karl Lang se félicitait également de la dédiabolisation, mais la dédiabolisation, ça ne veut pas dire revenir sur nos positions. Ça ne veut pas dire rendre plus molle, plus souple, plus... C'est pas ça la dédiabolisation. La dédiabolisation, c'est de donner notre véritable image. C'est de dire, voilà ce que nous sommes. On ne se balade pas avec un casque à pointe, un couteau entre les dents et des bottes. Ça c'est le fantasme. La réalité, c'est qu'on est des pères et des mères de famille honorables qui travaillons, dont les ancêtres, dont les aïeuls se sont battus, etc. Je veux dire, c'est ça la dédiabolisation, parce que la diabolisation est un phénomène injuste. Donc il n'y a pas de raison de se soumettre à cette injustice, ni nous d'ailleurs, ni pour nous, ni pour nos électeurs.
Je veux bien qu'il s'agisse de Versailles, mais nous avons distribué, M. Laroche-Brochard et moi, des tracts à Versailles. Nous faisions toutes les rues l'un à côté, l'autre de l'autre, et nous avons été très bien accueillis. Et il me faisait remarquer l'autre jour que, effectivement, les gens nous parlent correctement, nous n'est plus insultés, même si les gens n'ont pas voté pour nous, on sent que petit à petit, il y a de bons rapports avec eux. Et ça, nous l'avons senti pendant 15 jours. Nous avons tous les jours distribué des tracts sans avoir eu un mot désagréable de quelqu'un. Je pense que c'est déjà une bonne chose.
Est-ce que vous êtes certaine, Marine Le Pen, que c'est le fait de votre action, puisque vous y faites allusion à l'instant, vous avez beaucoup travaillé, par exemple, à établir des meilleurs rapports avec la grande ou la grosse presse, ou bien le fait de l'évolution de la situation et de la psychologie de nos concitoyens, qui, aux yeux desquels, le Front National apparaît, sinon déjà comme un recours, mais comme un recours possible, dans la mesure où leur situation s'aggrave.
Ah non, mais attendez, je n'ai jamais dit que cette dédiabolisation était de mon fait. Je crois qu'elle est d'abord du fait de la présidentielle. Je crois que le simple fait que Jean-Marie Le Pen soit arrivé au second tour de la présidentielle déjà a fondamentalement changé les consciences. Ça voulait dire que on fera pas croire à quelqu'un, même s'il a 2 neurones, qu'un nazi peut arriver au second tour de l'élection présidentielle en France. C'est n'importe quoi. Bon, donc tout ce phénomène, je veux dire, seulement le problème, c'est qu'il faut pas le rejeter. Je veux dire, à partir du moment où on sent qu'il y a une petite ouverture, que l'étau dans lequel on nous maintient et qui est difficile à vivre pour nous, mais nous, on a l'habitude, nous sommes des hommes et des femmes politiques, mais nos électeurs dont les enfants se faisaient cracher au visage à l'école, qui perdaient leur emploi, qui se faisaient jeter de leur syndicat, c'était pas admissible. C'est pour eux surtout. Je veux dire que cette entreprise de dédiabolisation et que cette volonté de profiter de la dédiabolisation qu'on a sentie depuis la présidentielle est importante. Il s'agit d'accompagner le mouvement, de dire oui, c'est vrai, nous ne sommes pas le fantasme qu'a créé la gauche, parce que c'est la gauche qui a créé ce fantasme-là pour pouvoir exister. Moi, c'est aussi simple que ça.
Quand vous parlez des élections, vous avez tout à fait raison, il y a un autre aspect de l'élection présidentielle qui a certainement joué un rôle là-dedans, c'est l'hystérie de l'entre-deux.
Bien sûr.
Parce que là, les gens qui regardent la télé, qui écoutent, ils ont quand même vu que s'il y avait des fous furieux, hein, et des violents et des gars qui cassaient tout et tout, et qui envoyaient les enfants dans les rues, manifester dans des manifestations auxquelles ils n'avaient rien à foutre et auxquelles, d'abord, ils comprenaient évidemment rien du tout, eh bien, c'était pas le Front National. Le Front National, il n'a pas de Balilas ou il n'a pas de Hitlerjungen, mais on a vu les Hitlerjungen de la gauche prolétarienne et des organisations...
Relayées par la télévision un quart d'heure après le début de la première manifestation, j'étais dans un café, j'ai pas la télé, je vous rassure tout de suite, j'étais dans un café ce soir-là, et j'ai vu la télévision dire depuis un quart d'heure, il y a 500 personnes qui manifestent. Ils n'ont pas dit rejoignez-les, mais enfin, ils en ont fait un gros sujet. Ils ont lancé la première manifestation comme ça. Et ces pauvres gosses avaient sûrement l'impression d'être des rebelles avec la télé qui les poussait au cul au bout d'un quart d'heure. C'est ça qui est fantastique. Tous ces rebelles télévisés dans les vitrines des librairies, moi, ils commencent vraiment à me fatiguer.
Ça, c'est parce qu'il est jaloux. Parce que son livre « Bat ta femme » n'est pas en vente dans les bonnes librairies respectables.
C'est dommage, je serais millionnaire. Vu le tabac que ça fait à la librairie nationale, 12 rue de la Sourdière, 7501 Paris, 12 euros franco.
Parce qu'il n'est élu que par l'extrême droite, et tout le monde sait qu'à l'extrême droite, on passe notre temps à battre nos femmes. Qu'est-ce que vous avez appris à titre personnel au cours de cette campagne ?
Oh, beaucoup de choses, parce que à la différence des campagnes que j'avais menées avant, c'est-à-dire essentiellement les campagnes législatives, où c'est quand même très des petites campagnes, enfin sur quelques municipalités où il n'y a pas d'équipe, j'ai beaucoup appris. J'ai appris sur la psychologie des gens que j'ai rencontrés. J'ai appris aussi beaucoup sur la manière dont on travaille avec une équipe. Je veux dire, j'ai pris la décision de mettre en place il y a 7 mois un bureau de campagne. Toutes les semaines, on est une trentaine, et dans lequel on a pu discuter, faire un programme qui, je crois, était un programme parfaitement crédible et qui allait tout à fait dans le sens de nos propositions nationales. On apprend, et puis on apprend aussi sur les limites. Sur les limites que nous avons, sur le travail qui reste à faire. Enfin, on apprend énormément de choses dans une région qui est énorme.
C'est quasiment la situation en Île-de-France,
catastrophique.
La situation humaine, sociale,
c'est catastrophique.
Vraiment,
c'est catastrophique, oui. C'est catastrophique, mais nous ne sommes pas les seuls à le dire. Et encore une fois, dans le livre de M. Copé, avant qu'il soit ministre, il avait des yeux. Depuis qu'il est ministre, il n'a plus de yeux. C'est un peu ça. Il disait quoi ? Il disait, on ne peut pas parler du Pax pendant 3 semaines dans des quartiers où le 3/4 des familles sont polygames. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça ? C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on connaît cette situation. Il y a des endroits où on ne peut pas mettre le pied. Ou pour y aller, quand on est candidat, il faut y aller entre 7h et 7h30 du matin, parce que là, la racaille, elle n'est pas du matin. Et puis arriver, faire coucou, bonjour, et repartir en courant. C'est des quartiers entiers où même le ministre de l'Intérieur, protégé par une armada, s'en va sous les caillasses. Bon, des situations sociales qui sont désespérantes. C'est pour ça que moi, quand on me dit, ben oui, mais vous comprenez, votre proposition d'accession sociale à la propriété pour les familles modestes, françaises, c'est honteux, parce que, et vous comprenez, les immigrants, on en fait quoi ? Ben, j'ai dit, mais écoutez, on va les mettre chez vous, dans votre appartement. Ben, pourquoi pas ? Parce que moi, j'ai des dossiers d'une mère, d'une famille monoparentale avec une petite maman qui a 2 enfants qui vit dans un taudis. Elle n'a pas le droit, elle ? Ou de ce chef de famille dont la femme est au chômage et qui a 3 enfants et qui gagne le SMIC et qui ont dit « Ah ben non, monsieur le SMIC, vous ne vous rendez pas compte ? Vous êtes un homme heureux. C'est pas possible, on ne peut pas vous accorder de logement social. Si vous aviez le RMI, vous pourriez en avoir un dans 7 ans. Mais là, on a des gens qui sont beaucoup plus dans une situation beaucoup plus catastrophique que la vôtre.
Mais est-ce que les scores électoraux recoupent ces situations ? Est-ce que dans les villes ou les territoires où il y a vraiment cette situation de détresse totale des Français de souche, je sais bien que c'est interdit maintenant de dire Français de souche, c'est pas extraordinaire, ça veut rien dire, paraît-il, Français de souche. Est-ce que les résultats électoraux confirment que cette population, qui est une population qui vit en état de dimitude dans des territoires occupés, est-ce qu'elle vote pour la droite nationale ?
Mais je crois que pas toujours, parce que je crois qu'elle vote pas. Je crois qu'elle est, elle s'est soumise. Dans beaucoup de cas. C'est-à-dire qu'elle est en proie justement à ce fatalisme en disant on n'y arrivera jamais, on peut pas. Je veux dire, quand je vis seul, moi, au milieu d'une barre d'immeubles, c'est terminé, c'est trop tard, c'est fini, plus personne ne pourra rien faire pour nous. Alors, il faut aussi les convaincre que justement tout n'est pas terminé. Bon. Et puis parfois, encore une fois, les votes s'égarent sur un pseudo-vote contestataire qui n'a pas lieu d'être. Je veux dire, on voit une espèce de parallélisme des formes dans cette campagne, dans ces résultats du premier tour, entre nos résultats et ceux de Santini. Là où nous sommes forts, il est faible. Là où nous sommes faibles, il est fort. Parce qu'en réalité, les gens ont cru...
Il y a une confusion. Hein.
Voilà, il y a eu une confusion qui a été faite et j'espère que ceux qui se sont trompés de bulletin au premier tour ne se tromperont pas au deuxième. Mais la situation en Ile-de-France est vraiment catastrophique. Et puis, parallèlement, je veux dire, il y a quelque chose de très intéressant qui est ressorti justement de ce bureau politique où chaque candidat exprimait un peu ce qu'il avait ressenti du premier tour. Et ses résultats sur les analyses, il s'avère que dans les grandes villes et dans les villes en particulier, le vote du Front National a tendance à se tasser ou à régresser. Alors vous voyez que moi, en Ile-de-France, évidemment, je suis servi. Bon, comme grande ville, je suis servi. Mais pourquoi ? À raison du clientélisme.
Tu demandais tout à l'heure ce qu'il y a de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'autour de Marine se réunissaient tous les 8 jours une quarantaine de bons hommes qui étaient d'anciens conseillers régionaux, actuels conseillers régionaux, qui ont discuté, qui ont mis au point un programme, et que, à mon avis, les auditeurs peuvent demander ce programme, car on nous a toujours reproché au Front National de ne pas avoir de programme. Là, nous avons un programme régional qui permet de dire ce que l'on a fait et ce que nous souhaitons. Donc ça, c'est le travail d'un certain nombre de personnes ensemble qui, depuis 6 mois, mettent au point ce genre de choses.
Vous écoutez Radio Courtoisie. Excusez-moi, je pensais que vous aviez terminé et qu'il était temps de nous identifier.
Mais pour revenir au clientélisme, c'est un fléau. Je veux dire, le clientélisme est un fléau. Il y a des endroits entiers où c'est, je te donne ta place, tu votes pour moi parce que comme ça ton enfant aura, t'as une place dans une crèche. Et puis à la cantine, à la cantine je pourrais peut-être faire un effort si jamais évidemment il faut penser à moi. Je veux dire, on est dans un pays qui est rongé par le clientélisme. Alors là encore, je veux dire, c'était la population française de s'en libérer en disant, mais écoutez, leur rappeler que dans l'isoloir, il n'y a personne.
Absolument. Mais c'est aussi d'abord, c'est une très très vieille donnée de la politique de la démocratie française, le clientélisme.
Et qui est aggravé par la décentralisation.
Et qui est aggravé, bien sûr. Mais aussi, c'est un argument qui est tout le temps brandi par les politiciens en place contre le Front National en disant, mais eux, ils ne pourront rien faire pour vous.
Bien sûr. Oui, bien sûr. La seule chose qu'on peut faire pour eux, c'est de les représenter. Parce que c'est ce que j'ai répondu la dernière fois quand on m'a dit, mais quel est l'intérêt d'avoir des conseillers régionaux Front National ? Mais j'ai dit, dites-moi, les 450 000 électeurs qui ont voté pour nous au premier tour, ils n'ont pas le droit d'avoir un droit de regard sur les lycées de leurs enfants ? Ils n'ont pas le droit d'avoir un droit de regard sur la manière et à qui on attribue les logements sociaux ? Ils n'ont pas le droit d'avoir un droit de regard sur la formation dont ils peuvent bénéficier ? C'est quand même incroyable de nier comme ça une partie de la population. Cette partie de la population, ces électeurs-là, ils existent, ils ont envie d'être défendus, et croyez-moi, on va le faire.
Alors, Victoria, je sais que vous avez un énorme paquet de questions pour... Alors, on va faire une pause question.
Pause question. Grande pause question.
Sur Radio Courtoisie.
Auditeur, dans l'Essonne, de nombreux électeurs n'ont pas reçu les documents administratifs, les programmes. La Poste interrogée a dit que la préfecture ne les a pas transmis. Cela s'est-il passé ailleurs ? S'agissait-il de favoriser l'abstention ou autre magouille ?
Ah non, bah écoutez, je n'ai pas été informé de ça, mais vous voyez, maintenant que j'en suis informé, je vais immédiatement appeler la préfecture pour savoir ce qu'il en est et élever une protestation officielle.
À l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, une semaine avant les élections, il y avait la semaine d'éducation contre le racisme. Il y avait deux conférences intitulées « Comment combattre le Front National ?» avec des profs de l'université et des intervenants du MRAP et de la Ligue des droits de l'homme.
Très bien, donnez-moi le message. Je vais transmettre ça à Jean-Richard Suzer, professeur de gestion à Paris-Dauphine, qui va se renseigner sur ce scandale absolu. Je tiens à dire d'ailleurs que l'éducation nationale, dont on sait qu'elle a détruit pas mal quand même de nos enfants, l'a si bien fait qu'il y a eu un vote très important des très jeunes, c'est-à-dire de ceux qui venaient d'avoir le droit de vote, évidemment au bénéfice de la gauche, et qui sont ceux qui manifestaient entre les deux tours le 21 avril. Comme quoi, le bourrage de crâne sur nos enfants, ça marche, alors soyez vigilants.
Je pense que c'est parfaitement illégal, et c'est à rapprocher du fait que des dizaines de chercheurs du CNRS travaillent en permanence aux frais de l'État, aux frais de la collectivité, et donc des 6 millions d'électeurs du Front National, à trouver des arguments contre lui. Je pense que c'est des choses qu'il faudrait effectivement examiner de plus près.
Et qu'à l'heure actuelle, on a, dans un cas comme celui-là, vu que le parti pris était certain, car les conseillers régionaux des Yvelines n'ont même pas été invités pour pouvoir défendre leur point de vue face aux oppositions qui étaient présentes.
À Nice, hier soir, aux actualités régionales, il y a eu un communiqué du CRIF demandant à tous les électeurs de faire un barrage au Front National.
Oui, classique, ça change pas. Ce qui est plus embêtant, c'est quand ça vient du MPF de M. De Villiers.
C'est légal du moins quand même, c'est ce dont on vient de parler. Voilà. Bon.
Il y a 6 ans, le RPR, en refusant tout accord avec le Front National, a laissé la présidence de plusieurs régions à l'Union de la Gauche. Cette fois, grâce à une réforme tricherie, l'UMP permet aux socialo-communistes de gagner presque partout. Est-ce une infinie bêtise ou de la connivence?
Je pense que c'est un peu des deux.
Concernant les régionales, comme en 1998, cela va être l'arroseur arrosé. On aura plus d'élus socialistes qu'auparavant grâce à Chirac.
C'est un spécialiste de la promotion de la gauche, Jacques Chirac, en quelque sorte.
Pourquoi ne dit-on pas clairement que la France est à droite? La gauche, tout parti confondu, représente 45% des électeurs à tout casser.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la région Île-de-France est à droite depuis 86, 92, 98. Elle l'est encore, mais elle l'est avec une droite qui ressemble quand même de moins en moins, il faut bien dire, sous les traits de l'UMP.
Franchement, moi je me demande, enfin je vais peut-être dire une chose monstrueuse, mais je me demande si Huchon n'est pas plus à droite que Copé.
C'est pas impossible, et d'ailleurs je rappelle quand même aux électeurs que le Front National n'a jamais été aussi maltraité que sous les gouvernements de droite. Jamais. Voilà. Jamais aussi maltraité.
C'est normal. Si vous tenez une boulangerie, vous avez tout à fait intérêt à faire partir la marchande de petits pains. Mais si vous avez une boucherie, vous en foutez de la marchande de petits pains. Donc voilà, c'est pourquoi les socialistes, le Front National, ils y voient pas grand risque.
N'avez-vous pas entendu hier soir l'appel de Sarkozy aux militants du Front, qui sont des Français à part entière?
Soit, on est content de l'apprendre.
Et qui doivent voter pour tous les candidats.
Je suis content surtout que ce soit M. Sarkozy qui m'apprenne ça.
Il est encore plus étranger que nous, celui-là.
Pourquoi ne pas voter au second tour, comme le conseille M. Ferré, pour le candidat UMP lorsqu'il a une chance de gagner contre l'Union de la Gauche? Est vrai qu'il y en a peu dans ce
cas. Non, mais pour faire quoi? Non, mais même si c'était le cas, il y en a peu parce qu'en réalité, la mécanique du mode de scrutin qu'ils ont fabriqué et qu'ils ont imposé. Mais pour faire quoi?
Comme disait quelqu'un que j'aime beaucoup et que vous connaissez, je crois que vous l'aimez bien aussi, on peut tout faire avec les baïonnettes sauf ça sort dessus. Alors, je dois dire que la réforme, d'ailleurs, Juppé l'a avoué clairement, il a dit, comme tu le rappelais tout à l'heure.
Le Front National sera présent dans 17 régions sur 22 à cause des imperfections du mode électoral.
C'est-à-dire, ils ont fabriqué une machine infernale pour faire exploser le Front National.
Ils l'avouent. Et ils avouent que ça marche pas. Et c'est un repris de justice qui nous dit ça.
Ah, c'est fabuleux. Ils nous prennent pour des pélicans. Hein.
Nous recevons au PRE une lettre du maire et député. Toute voix portée sur le Front National sera en pratique une voix offerte pour la victoire de la gauche, responsable du lent déclin de l'Île-de-France. Un vote FN à la proportionnelle rapporte bien une voix au FN. Elle n'est donc pas perdue.
Mais non, vous voyez, bien sûr, j'ai bien fait d'attirer l'attention là-dessus. Hein. Ils sont en train de bourrer le mou des électeurs en disant le FN ne peut pas avoir de région, alors ne votez pas pour eux, ça ne sert à rien.
Bien sûr, et risque comme ça de nous faire beaucoup de mal. Et de faire beaucoup de mal aux Français qui seront moins bien représentés, aux électeurs français qui seront moins bien représentés mais voilà, mais c'est la technique. Non, mais
c'est purement et simplement de l'arnaque. Les gens qui disent ça sont des menteurs et des crapules. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent les mécanismes électoraux des législatives. Où, effectivement, il n'y a qu'un élu. Hein, il y a un député. Alors, on peut considérer que quand il y a une triangulaire aux législatives, voter pour le Front National, qui n'est pas en position de gagner l'élection, c'est une voie manifestement qui n'a pas d'objectif pratique puisque le candidat ne sera pas élu. Mais parce que c'est un candidat unique. Donc il s'agit de choisir entre un candidat de droite et un candidat de gauche. Mais là, il s'agit de choisir entre donner des élus à une liste UMP ou donner des élus à une liste socialiste ou donner des élus à une liste Front National. Je pense qu'il n'y a aucune hésitation à avoir. C'est tellement évident. Ça n'a rien à voir. Ces gens-là le savent. C'est des professionnels de la politique. Ils en vendent depuis des années. Donc quand ils disent ça aux Français, ça ajoute encore. Alors ce sont des salauds avant l'élection, avant le premier tour. Ce sont des imbéciles au moment du deuxième. Mais pour bien leur faire comprendre qu'on les prend pour des imbéciles, on leur montre qu'ils n'ont rien compris au système électoral, qu'on a soi-même concocté, d'ailleurs avec lequel on a fini par se prendre les pieds dedans.
Pour empêcher le Front National d'avoir des élus, quand même, parce que c'était le but de cette modification du mode de scrutin. Grand démocrate, hein, bien entendu.
Je vote à Montreuil, nous dit cet auditeur. En tous les cas, le matin du vote, dimanche, seule l'affiche du Front était impeccable. Bravo aux couleurs.
Bah, écoutez, on leur transmettra.
Ils ont du mérite, parce que moi, je vous ai vu les yeux crevés ou la mâchoire arrachée dans tout mon quartier.
Oui, mais là encore, il y a eu un arrachage, un sabotage systématique. Ouais. Trop systématique pour être naturel. Ce serait bien les méthodes d'un certain nombre de
journal. Il y en a vu une inscription qui était superbe, hein, qui était il ne faut pas faire grandir IRE. Non, apprenez ER à vos enfants la vérité Z sur le Front National. Ne les laissez pas grandir c'était ça.
Sur les panneaux d'une école.
Sur les panneaux d'une école publique. Magnifique.
Je pense que l'éducation nationale est bien belle, effectivement.
Je vous signale quand même que je trouve quand même incroyable qu'à la sortie des écoles, les enfants, devant tout le monde, arrachent ces affiches électorales. Il me semble que la moindre des choses, c'est de leur apprendre le civisme. Hein, et je pense qu'il serait de la responsabilité des chefs d'établissement que d'empêcher, ou à tout le moins de faire la leçon aux enfants dont certains sont très petits, pour leur dire qu'on n'arrache pas les affiches électorales.
Mais d'autant que c'est difficile, étant donné qu'on les a envoyés dans la rue en 2002, je leur dis aujourd'hui.
D'autant que je crois que l'affichage sauvage est interdit maintenant. Alors donc maintenant, on va être sanctionné si on colle en dehors des panneaux, et sur les panneaux, on va être arraché.
Là, c'est exactement ça.
On gagne à tous les coups.
Exactement ça.
Oui, mais de temps en temps, ça, le coup ne marche pas, parce que si l'on prend quelqu'un en train d'arracher une de nos affiches sur un panneau électoral et qu'on puisse le maintenir, la police vient, et ils ont contravention et des problèmes.
Notez l'intérêt, c'est que quand on arrache les yeux ou la mâchoire de Copé ou Duchon, on ne sait plus trop qui est qui, alors que moi, au moins, on me reconnaît. C'est ça, au moins, cet avantage.
Les cheveux sont là. Un auditeur du 18e arrondissement vous dit « On est tranquille le matin jusqu'à midi dans le quartier Saint-Bernard. » Vous pouvez venir nous voir, il y a encore quelques-uns de souche.
Et nous sommes venus d'ailleurs au marché dans le 18e avec la horde hurlante des militants socialistes menés par le conseiller municipal vert du coin, encore une fois, qui tentait de nous empêcher, mais enfin, sans grand espoir, parce qu'ils commencent à savoir qu'ils ont beau essayer de nous taper dessus, ça ne nous empêchera jamais de venir, de rencontrer nos compatriotes.
Un auditeur nous dit qu'il n'y a pas de raison que les gens qui se font dépouiller de leur vote aux législatives, aucun élu avec 6 millions. Là, au moins, avec ce scrutin-là, ils auront des élus.
Bien sûr, c'est l'occasion où jamais vous êtes privé de députés, c'est l'occasion où jamais d'avoir des représentants dans les conseils régionaux.
Marine Le Pen dit que les électeurs devraient avoir aussi le courage de voter pour les candidats courageux du Front. À mon sens, il ne faut pas du courage pour voter Front National. C'est une question de lucidité. pour ne pas dire intelligence ou non-amnistie.
Non, bien sûr, mais quand je dis ça, c'est que c'est, je m'adresse à ceux qui ne l'ont pas encore fait, et de leur dire, mais vous râlez, et à juste titre, parce que notre pays va de plus en plus mal, mais ayez franchement le courage de vous débarrasser de cette classe politique qui est incapable et qui fait toujours les mêmes erreurs, volontaires parfois d'ailleurs, depuis si longtemps.
C'est quand même Marine Le Pen qui a les plus belles affiches et qui est la plus belle.
Non, merci.
C'est un auditeur. Nous avons eu cet après-midi, dans le 13e arrondissement, un prospectus de M. Huchon distribué devant un magasin Attaque. Il organise une manifestation avec Bertrand Delanoë, Marie-Georges Buffet et Daniel Cohn-Bendit. Je pense qu'après, M. Huchon organisera des sorties d'enfants pour aller uriner sur la tombe du soldat inconnu avec M. Cohn-Bendit.
Il faut pas, en tout cas, c'est
qu'il France.
Il faut pas qu'il organise des sorties d'enfants avec Cohn-Bendit, parce qu'il risque d'avoir des gros ennuis. Là.
Une auditrice nous dit, expliquez-nous comment se fait la répartition des sièges dans les conseils régionaux par département. Depuis qu'ils ont changé le mode de scrutin, nous sommes complètement paumés, on ne comprend plus rien du tout.
Notez, nous non plus, on a mis beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait.
Est-ce que vous avez fini par comprendre?
Oui, alors en réalité, c'est le score régional du deuxième tour, c'est pour ça qu'il est très important ce deuxième tour, qui fixe le nombre de conseillers régionaux qui ensuite sont attribués en fonction du pourcentage de chacun des départements.
Le nombre de... Mais il est fixé, puisque par exemple à Paris, il y a 44
non,
candidats.
Je veux dire, par exemple...
Il faudra 40... il y aura 44 élus des
non,
différents...
Non. Ce que je vous explique, c'est que, par exemple, si vous faites 10%, au niveau régional, c'est ce qui fixe le nombre de vos élus. C'est-à-dire, on vous dit, vous avez fait, par exemple, 10%, donc vous aurez, puisque maintenant c'est plus 209 élus, puisque 25% de primes, ayant écarté 25% de conseillers régionaux, il y a 150 conseillers régionaux à se répartir. Vous faites 10%, vous savez que vous avez 15 conseillers régionaux. Voilà, vous aurez 15 conseillers régionaux. Mais après, il faut les répartir en fonction des scores de chacun des départements, les uns par rapport aux autres. Oui, c'est extrêmement compliqué. Oui. Extrêmement compliqué, mais vraiment...
Vous savez à quoi ça fait penser? Ça fait tout à fait penser
à... Plus c'est compliqué, moins les gens comprennent, ah, voilà. C'est le but.
Ça fait tout à fait penser au référendum sur Schengen. On a dit aux gens, est-ce que vous votez oui ou non pour Schengen? Et qu'est-ce que c'est Schengen? Bah, tenez, c'est un petit bouquin, il y a 800 pages, vous lisez ça, vous aurez tout compris. Bah, évidemment, personne n'a lu, et ça c'est la question, c'était, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse ce qu'on a décidé qu'on ferait, ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Les gens ont dit, bah oui, d'accord, ils ont voté à 50% contre, à 50% pour, et puis on a donné un petit coup de pouce pour que le 50 soit 50,02, et voilà. Et là, on voit très bien que, à force de compliquer la charcuterie, la charcutaille électorale, ils rendent les choses totalement inextricables, ce qui fait que la plupart des citoyens, d'abord les Français savent, la majorité des Français ne savent déjà pas faire la différence entre des cantonales, des législatives, des présidentielles, des européennes et des sénatoriales, parce que amusez-vous à faire une expérience, descendez dans la rue et demandez aux gens ce qu'ils ont voté au sénatorial. La plupart vont vous répondre, moi de toute façon je vote toujours Front National ou je vote toujours UMP, donc au sénatorial j'ai voté UMP, toujours, voilà. Ça, c'est... Ils ne savent pas qu'ils ne votent pas au sénatorial, ils ne savent pas, la plupart des gens ne le savent pas.
Le jour des élections, j'ai deux personnes qui m'ont téléphoné sur mon portable en me disant, on veut me faire voter deux fois, qu'en pensez-vous? Y a-t-il la possibilité de voter deux fois? Pour qui doit-on voter? Et le renseignement leur avait été donné par la préfecture. Ils n'avaient pas fait leur travail d'informateur, mais ils trouvaient quelqu'un qui pouvait répondre à la question.
C'est extraordinaire. Alors, donc plus on complique les choses et plus après les gens... Et alors après, on s'étonne qu'il y ait 60% d'abstention.
C'est l'écran de fumée. C'est le but.
Mais le quart des électeurs qui vont... Le quart des sièges... qui vont être donnés à la liste qui arrive en tête. Comment elle est répartie, là aussi,
dans les départements ? Vous ennuyez tout le monde avec vos histoires. On n'y comprend rien, on vous a dit.
Le
quart des sièges, c'est 50. Et c'est 50...
À Paris, ça fait 50.
Enfin, 51... 51 conseillers régionaux. Plus les conseillers régionaux correspondant au pourcentage de cette liste. Donc ça fait, mettons, 100 conseillers régionaux, 110 conseillers régionaux. Et après, ces 110 conseillers régionaux sont répartis en fonction des résultats respectifs de chacun des départements.
Et si on prenait une région où il y a, mettons, 100 sans conseiller. Hein. Ça veut dire, vous avez trois listes. Une liste qui fait 40%, une liste qui fait 30%, et une liste qui fait donc, mettons pour simplifier, 50, une liste qui fait 30, et une liste qui fait 20. Donc sur les 100, on en prend 25, qu'on retire en quelque sorte, qu'on met de côté.
Voilà.
Il reste donc 85.
75.
75, pardon, oui, 75, excusez-moi. Sur ces 75, on va donner la moitié à la première liste, puisqu'elle a fait 50%, c'est-à-dire, disons, pour simplifier, 32, plus
la prime
de 25, donc ils auront 57 élus. Et les autres auront au prorata de leur résultat, c'est-à-dire, celui qui a fait 30%, il aura 30% de 85, et celui qui a fait 20%, il aura 20% de 85.
Oui, mais partagé par chaque département, puisque chaque département aura le pourcentage qui lui revient dans le vote qu'il a émis pour ce parti politique.
Oui, mais ça dépend en quelque sorte des partis. C'est-à-dire que c'est les répartitions à l'intérieur des...
Humblement, je propose de quitter le sujet. Voilà. Bruno Gollnisch a déjà passé 20 minutes, un mois, à essayer de nous expliquer ça. Il a eu beaucoup de mal, et j'ai peur qu'on ne lasse les auditeurs. Je suis sûr que Victoria est d'accord pour mettre de côté les messages qui portent sur ce sujet un peu fatigant.
Il y a deux catégories d'auditeurs. Il y a ceux qui sont morts d'ennui et ceux qui sont morts de rire.
Mais non, tout le monde est mort de rire sur la loi électorale. Depuis le 6 février 1934, plus je vois ce que je vois, plus je crois ce que je crois. Bravo Marine, un maurassien, ancien enseignant de 94.
Plus, quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait, on est bien content de penser ce qu'on pense.
Madame Le Pen, quel est le pourcentage des élus du Front qui siégeront au Conseil régional d'Île-de-France et dans les autres régions? Les sondages nous donnent déjà les résultats. Leur pronostic, gauche 48%, droite 38%, Front national 14%. Que pense Marine Le Pen de ces méthodes de propagande?
Mais ce sont des méthodes de propagande. Alors je donne un exemple très précis d'ailleurs. En Île-de-France, tous les sondages ont maintenu Jean-François Copé et André Santini au coude à coude. Alors, en quoi ça a altéré la sincérité du scrutin? C'est qu'en créant cette primaire jouable, en quelque sorte, entre le candidat de l'UMP et le candidat de l'UDF, eh bien, les sondeurs ont mobilisé les électorats de l'un ou de l'autre, ou de l'un d'ailleurs contre l'autre, parce que beaucoup de gens ont voté Santini parce qu'ils ne peuvent pas voir Copé. Bon, ça c'est la réalité. Mais en maintenant cette fausse concurrence, en les laissant à 23-23 tous les deux pendant 6 mois de campagne dans les sondages, eh bien, je crois qu'ils ont véritablement altérer la sincérité du scrutin. S'ils avaient donné la réalité, si tant est que les sondages puissent la donner d'ailleurs, parce que je n'y crois pas, mais bon, s'ils avaient mis Copé à 23 pendant 6 mois et Santini à 15, Santini aurait probablement terminé à 8.
Alors, M. Gollnisch disait dimanche soir sur France 2 à l'émission sur les régionales que la gauche n'avait aucun scrupule à accepter les voix des communistes. Réponse de Dominique Strauss-Kahn, les communistes français n'ont pas de sang sur les mains, eux.
Il fait bien de relire son histoire de France.
Pourquoi le Front National, pourquoi le Front National ne fait-il pas savoir haut et fort qu'il n'a pas de sang sur les mains?
Non mais on le fait savoir haut et fort.
Il pourrait se faire défendre par la griffe.
Non mais je veux dire, il n'y a que M. Strauss-Kahn qui peut sortir des énormités. Pareil.
Pouvez-vous parler des progrès remarquables du Front en milieu rural dans toute la France?
Ah oui, c'est incroyable. En Basse-Normandie, Laura Chinel, qui est toujours vous m'avez donné un papier, il est toujours assez bas, mais Le Monde se déplore que dans les villages, il soit deuxième ou premier systématiquement. Ça, c'est vraiment historique.
Mais oui, mais il y a vraiment une très forte, à mon avis, une très forte imprégnation du Front National dans les milieux ruraux. Le problème, c'est que c'est un peu les vases communicants. C'est-à-dire que cette forte poussée rurale a un peu la contrepartie, c'est un peu la baisse dans les villes. Pourquoi? Mais parce que ce sont les gens qui ne supportent plus tous les problèmes de la ville qui partent s'installer en milieu rural. Donc il faut aussi convaincre ceux de la ville qu'on peut changer les choses.
Je corrige mon propos, hein. Il ne fait pas 10%, il fait presque 14%.
Ah non, il fait un très bon score, Fernand.
Pouvez-vous nous expliquer ce qui pousse les électeurs à passer d'un parti à l'autre, d'un candidat à l'autre? Pensez-vous qu'il n'ait aucune conviction personnelle? Moi, je n'ai jamais donné ma voix à la gauche. Vieille adhérente du Front, pleine d'admiration pour Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen.
Mais on ne sait pas. C'est une espèce de maladie française, il faut dire, quoi. C'est ce balancier, ce vote un peu ludique en disant, pour sanctionner l'un, on va voter pour l'autre, puis sanctionner l'autre, on va voter pour l'un. Moyennant qu'on se retrouve dans des situations complètement délirantes où aujourd'hui, des Français votent PS pour sanctionner l'UMP. Ils votent donc pour des gens qu'ils ont fichus à la la porte il y a deux ans.
Mais nous ne nous plaignons pas de toute façon, parce que à l'heure actuelle, le Front National récupère beaucoup de voix de gens qui viennent de gauche, et nous sommes très heureux de les accueillir, donc tant mieux qu'ils changent de temps en temps quand ils viennent chez nous.
Oui, quand ils viennent chez nous, en général, ils y restent. Oui. Parce que plus on nous connaît, plus on nous aime.
Alors, mais ce matin, un sociologue, je ne suis plus sûr quelle radio, analysait cette. Un sociologue qui en a des sérieux, analysait ça en disant c'est assez simple. En fait, les gens ont confiance dans la démocratie, bon, ce qui confirme ce que je pense par ailleurs, et ils essayent une fois à droite, une fois à gauche. Ils disent bon, en première fois, ils ne savaient pas bien, ils reviennent à droite, ils reviennent à gauche, puis ils font l'aller-retour en disant bon, cette fois-ci, ils ont peut-être compris. Parce qu'ils espèrent que les hommes politiques vont comprendre, parce qu'ils croient de toute bonne foi que ces gens-là sont au pouvoir pour faire aller les choses mieux.
Oui, j'ai un message là de Christian et Nicole Maréchal, qui sont les responsables de Saint-Cloud, et qui attire mon attention sur le fait que ce mode de scrutin est tellement compliqué qu'il y a des gens qui pensent, où nous, dans des départements où nous n'avons pas fait 10%, qui pensent qu'eux ne votent pas. Alors que tout à fait évidemment, et oui, ça n'est pas le score départemental qui compte, c'est le score régional. Nous avons fait dans toute la région 12,26%, nous sommes au second tour dans tous les départements. Il faut donc que tous les électeurs de tous les départements se déplacent dimanche pour voter, quel qu'ait été le score de leur propre département au premier tour.
Il faut vraiment que vous, j'ai pas de conseils à vous donner, mais je vous en donne quand même, il faut vraiment que vous fassiez passer ça auprès de tous vos candidats, parce que moi, j'en ai encore la chair de poule quand j'entends tous ces cadres, j'ai pas la télé, mais je les entends à la radio, et je vois que c'est très bien qu'ils ont travaillé et répété la façon elliptique et rapide dont ils disent, ah, électeurs du Front National, ah là là, ah oui, on vous comprend, on vous aime bien. Mais enfin bon, le Front National peut pas avoir, et là, ils accélèrent le rythme pour embrouiller les gens. Mais le Front National ne peut pas avoir de région pour que les gens entendent, ne peut pas avoir d'élus, ne peut rien avoir, donc ça sert à rien. En le disant à toute vitesse comme ça, les gens ont l'impression de ne pas pouvoir voter ou que les candidats du Front National ne sont pas éligibles au deuxième tour. Donc il faut riposter à ça. Il y a une campagne en ce sens qui est travaillée depuis longtemps, manifestement. Il faut vraiment riposter à ça, même si vous ne dites plus que ça. Oui, oui, vous votez au deuxième tour. Oui, oui, nous aurons des élus.
Bien sûr, bien
sûr.
Sent la vieille formation, hein, quand même.
Vous explique que si le MNR a fait un si bon score à Nantes, c'est à cause de la campagne de M. Maréchal qui s'est réclamé de M. Guichard, gaulliste, et qui a dit on ne parle plus d'immigration, et un autre parce qu'il ne venait jamais au conseil régional.
Oui, mais ça, on trouve toujours des explications à tous. S'il avait fait 15, alors, on aurait dit mais oui, mais gnagnagna. Bon, moi ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez, ce que je remarque, c'est que d'abord, M. Maréchal a parlé d'immigration comme tous les candidats du Front National, puisque ce sont d'ailleurs les seuls candidats qui parlent d'immigration. En Île-de-France, pas une fois le mot d'immigration n'a été prononcé, sauf bien entendu par moi, qui en ai parlé à chaque fois. Donc, il ne faut pas essayer de trouver des raisons à tout cela. Je remarque que, effectivement, les voix qui se sont égarées au MNR ont fait chuter 5 de nos listes, et que par conséquent, des centaines de milliers d'électeurs dans les 5 régions vont être privés, il faut le dire, parce que c'est la vérité mathématique, vont être privés de représentants à raison de ces candidatures. Bon, ben, voilà, c'est la vie.
Des nouvelles qui ne sont pas électorales. Dernière nouvelle, on vient de désamorcer une bombe sur la ligne Paris-Bâle à hauteur de 3.
Donc, parfait. Alors, on me demande là, on me dit l'épisode du Get Fatna tel que rapporté par le Rivarol du 19 mars est totalement incroyable. Alors, je pense que ça doit être ce qui s'est passé à Étampes, hein, où nous sommes allés à Étampes, où nous sommes retrouvés face à 150 excités du Parti communiste et de la CGT qui voulaient manifestement venir aux mains. Alors, nous étions 6 avec Jean-Richard Sulzer, Huguette Fatna, notre ami de Rostolland, Madame Sakocek, notre candidate, et moi-même. Et alors que nous avancions protégés quand même par une vingtaine de CRS, casqués, beauté avec le bouclier, pour nous permettre d'aller jusque sur le marché, ce qui est totalement effrayant. Et Huguette Fatna s'est fait traiter de sale négresse. Voilà, bon.
Par des antiracistes, bien entendu.
Oui, bien sûr, par des antiracistes, démocrates, tout ça, labellisés, enfin tout, quoi.
Les antiracistes de la CGT ont quand même une certaine expérience, une certaine trempe, si j'ose dire.
Merci, Marine. On a l'habitude de se réserver quelques minutes.
Mais bien entendu, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre invitation.
Je me dépêche parce que, avant de parler du Libre Journal, je voudrais dire un mot en faveur de mes amis malgaches. Ils se sont devenus mes amis, je crois pouvoir le dire, depuis que j'ai passé 10 jours là-bas. Et Serge, que vous avez bien voulu diffuser sur cette antenne mon reportage. Vous savez, nos auditeurs savent que deux cyclones extrêmement violents ont frappé Madagascar. Il y a des dizaines de milliers de sans-abri. Et moi, j'ai vu de mes yeux pourquoi. C'est simplement que l'habitat traditionnel, c'est des paillotes. Alors évidemment, ça va le dingue tout de suite, les campagnes sont isolées, enfin bref. Moi, ce que j'ai vu de mes yeux également, c'est le travail de l'association Raoul Follereau. Alors, je termine en rappelant son adresse, le Raoul Follereau, qui d'ailleurs aide des Français à se réinsérer en France également. J'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Fondation Raoul Follereau, 31 rue de Dantzig, 75 015 Paris. Et leur site, c'est raoul-follereau.org. Voilà, j'en viens, j'ai plus que 2 minutes, je pense maintenant, à peine, au Libre Journal. Et j'ai la fierté de dire que notre article sur dans le numéro 316 sur la pornographie obligatoire dans le collège catholique de Poitiers a été repris mot à mot, sans nous citer naturellement dans le Figaro, mais enfin c'est encore une manifestation de ce qu'on radote pas tellement. Nos révélations sur les islamistes extrémistes repérés par dizaines dans les aéroports de la région parisienne a été repris uniquement par nos amis de Rivarol qui eux nous citent très convenablement. Voilà encore des exemples qui m'incitent à dire aux lecteurs que c'est peut-être mieux de les avoir 15 jours avant, ces articles, ces révélations, 3 semaines avant, que d'attendre que le Figaro les recopie ou ne les recopie pas. Alors, qu'est-ce qu'on va recopier dans le numéro 318? Qu'est-ce que nos confrères vont recopier ou peut-être pas dans le numéro 318 qui vient de sortir? Ben, je pense qu'ils vont user des stylos ou des scanners, puisque nous révélons que l'attentat de Madrid était annoncé depuis 3 mois, et annoncé où ça? Annoncé sur Internet. Et par qui? Par les services aux musulmans, traduction en arabe, je suis diplômé d'arabe depuis hier, Al-Qaïda. C'était donc diffusé l'analyse, et ce qui est intéressant, c'est que c'était l'analyse de la situation politique en Espagne et la façon de faire pression sur les élections. Ça n'est donc pas un hasard si ces attentats ont eu lieu 3 jours avant les élections. Maintenant, les islamistes manipulent les échéances politiques dans les pays européens. Ça fait partie de leur méthode. Donc, nous publions l'essentiel de cette annonce qui date de 3 mois de l'attentat de Madrid. Et j'invite donc nos confrères à prendre stylo papier pour recopier immédiatement. Le commandant Bunel, qu'on ne présente pas, surtout quand on n'a pas le temps, a son idée sur les deux affaires AZF, puisqu'il y a une affaire de chantage dont les coupables se présentent sous le nom d'AZF. Et cette fois, je dois avouer que nous avons été devancés. C'est nous qui recopions, puisque Paris Match, FR3, Le Parisien et l'agence Gamma ont déjà interviewé le commandant Bunel à ce sujet.
Ils ont essayé de l'interviewer, mais il n'a pas voulu leur parler.
Mais il fait des révélations. Je crois que je dois conclure. Il nous donne la primeur de révélation qu'il n'a pas fait non plus à la police quand elle est venue l'interroger sur ses affaires. Alors, donc, notre site, c'est France Courtoise en un seul mot .info. Pour avoir un spécimen, on envoie 5 € ou un carnet de timbre. Si on veut s'abonner pour 1 an, c'est 110 € à SDB. C'est l'ordre et c'est l'adresse, hein, c'est très commode. SDB, 4 places France List, 75 010, Paris.
Merci Patrick pour cet exploit. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 24 mars 1960. Oh, mais je suis pas sur la bonne date. mercredi 24 mars 2004, de 18 à 21h, en différé jeudi 25, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez des cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie.
Il est 20h57, voici le programme de la soirée de la nuit sur Radio Courtoisie.